Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de Gameblog. Eh oui, 92e émission aujourd'hui du premier podcast audio de France dédié exclusivement aux jeux vidéo. Ça fait plaisir et ça, bah, bien évidemment, c'est grâce à vous, grâce aux bouche à oreille et grâce à la passion du jeu vidéo qui nous réunit tous les mercredis sur Gameblog.fr. Alors aujourd'hui, une thématique incroyable car quand même, au mois de février, au mois de mars, un phénomène étrange, paranormal, célesto-cosmique, deux vendredis 13 d'affilée. Forcément, ça fait flipper. Et du coup, ben, nous avons décidé de dédier ce podcast à la peur dans le jeu vidéo. En plus, comme de par hasard, pas mal de titres un peu horrifiques. En ce moment, hein, y a du Mad World dans quelques jours, du Resident Evil 5. Ben, depuis ben, quelques jours, justement, il y a eu aussi un House of the Dead sur Wii qui est sorti.
Overkill,
qui fait flipper dans les chaumières. En gros, l'horreur est à l'honneur sur Gameblog. Et pour en parler, eh bien, Raan, Kaf, Julo, Angel et un invité de marque. Il s'appelle Bruno Prozeva. Bonjour.
Proveza,
excuse-moi.
Voilà, ça commence bien.
C'est cool. C'était complètement fait exprès.
Oui, bon, on l'appelle Pive.
Et il officie sur Mad Movies. Ça nous fait plaisir. Tu es donc le spécialiste de l'horreur, que ce soit à la fois au cinéma et surtout en jeu vidéo, parce que tu t'occupes des pages jeux vidéo de Mad Movies.
Voilà. Donc, bah, bonjour chers auditeurs, enchanté, c'est une première pour moi, donc vous me pardonnerez si j'hésite un petit peu.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète.
Bon messieurs, on va resituer un petit peu tout de suite, un petit peu les bases de ce podcast, la peur dans le jeu vidéo. Et justement, en réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on pouvait distinguer différentes sortes de peurs véhiculées par les jeux. Tous les jeux qui veulent faire peur ne font pas peur de la même manière. Raan, je crois que tu as différencié un petit peu trois styles de peur essentiels.
Oui, il y a plein de nuances évidemment. Moi, j'aurais rangé donc effectivement en trois grandes familles. La première, ça va être la peur à la Resident Evil 1, quand t'as le chien qui passe à travers la fenêtre, donc les sursauts. Mm-hmm. Tu fais d'un coup, comme ça. Les bonnes vieilles ficelles qui te font sauter sur ton siège.
Que j'appelle la peur grand 8.
Voilà, le truc un peu grand spectacle.
Roller coaster.
La seconde, je dirais que c'est une peur beaucoup plus centrée sur l'ambiance, car ça apparente peut-être plus à l'angoisse et à ce qu'on a dans un Silent Hill. Donc, quelque chose qui se cultive sur la longueur, qui s'installe et qui dure.
De permanent, qui te prend vraiment au trip. Ouais.
Voilà, où tu sursautes pas forcément, mais tu te sens vraiment pas bien, quoi. Et puis la dernière, c'est plutôt le décalage. Par exemple, les scènes de Max Payne où tu t'avances dans un couloir et puis pouf, t'as le décor qui change pendant deux secondes et tu sais pas trop ce qui s'est passé. Ça te fait pas particulièrement sursauter, ça fait pas particulièrement flipper, mais ça m'aime pas très à l'aise, quoi.
Ça instaure une ambiance horrifique dans des jeux qui sont pas dédiés à l'horreur, mais ou qui ont juste comme ça par spasme un peu
comme
des
Fear aussi par exemple, plus récemment Fear 2. Donc
et je vois Piv et Kaf opiner du chef.
Oui, tout à fait.
Non mais c'est tout à fait ça. Fear, c'est que ça en fait, c'est que des changements d'ambiance. T'es en train de te balader dans un couloir et là, hop, t'as une apparition vague, une petite fille au bout du couloir et un changement de décor instantané, et ça marche plutôt pas mal.
Il y a aussi la peur panique d'un scénario dont on ne connaîtra jamais la fin.
Alors Julo a donc décidé à la troisième minute d'y aller. Vas-y, va au bout.
Merci, au revoir.
Ça c'est fait. Au revoir, Merkian.
Reste une dernière peur, si je peux me permettre.
Oui, Pive.
Celle d'allumer sa 360.
Ah oui, c'est vrai. Vrai.
Alors on explique pourquoi.
Va-t-elle claquer ?
C'est toujours
le Ring Red of Dead.
Le hasard, quoi.
Red Ring of Death.
Voilà, c'est ça, oui. La peur de voir si sa console n'a pas grillé. Mais ça va mieux quand même. Ces derniers temps, elle vit un peu mieux, la 360 Angel.
J'en connais certains qui les crament encore régulièrement, sans faire de conneries en plus.
Mais c'est parce qu'ils les avaient pas cramés avant, c'est tout.
Moi j'ai remarqué que c'était généralement celui qui les cramait le plus qui continuait à en cramer. Alors d'autres n'ont jamais cramé.
On va faire un tour ici. Est-ce que tout le monde a eu une. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, c'est grave. Alors moi, oui. Julio aussi.
Pas moi.
Piv aussi.
Non mais moi non, parce que je l'ai depuis pas longtemps.
Bon, ça, tu sais, ça veut rien dire.
Oui, bon, allez, on va retourner à une angoisse un peu plus tangible, réelle, moins matérialiste, plus numérique, les jeux, et on va voir à quel point finalement, dans les jeux vidéo, contrairement au cinéma, il y a plusieurs manières d'aborder la chose, on va dire techniquement. Au-delà des grandes ficelles, hein, que sont une musique à rien dissonante, les explosions, l'obscurité, les monstres qui font peur, des scénarios alambiqués, voilà, bien évidemment, ça reste des inspirations typiques du cinéma, on va y revenir, hein, bien sûr, dans ce podcast. Mais très techniquement, sur la manière dont t'as porté et cadré même le jeu, la vue subjective, la vue à la troisième personne, c'est des choses qu'on voit dans ces titres-là et qui apportent pas exactement le même degré d'horreur, hein.
Ouais, et je pense que c'est aussi très lié à la sensibilité de chacun. Moi, personnellement, je trouve que ce qui n'est pas plus flippant que la vue subjective, mais il y a certainement d'autres personnes qui trouveront que ça sera plutôt la vue à la troisième personne. Mais il y a une vraie question qui se pose effectivement, j'imagine, pour les développeurs quand ils veulent faire un jeu qui fait peur ou qui angoisse, c'est quelle vue adopter et comment est-ce que cinématographiquement parlant, quand tu vois ton personnage et ce qui lui arrive, c'est pas tout à fait la même chose que quand t'es dans ses yeux.
Il y a un peu plus d'affect, effectivement.
Voilà, mais d'un autre côté, ça dépend de l'effet en fait que tu veux produire, quoi.
Mais c'est les mécaniques en fait, les mécaniques qui changent en fonction de la vue adoptée, quoi. Quand tu as une vue à la troisième personne, tu peux faire apparaître quelque chose derrière toi et avoir une peur panique directement, alors que...
Mais tu peux le faire par exemple en vue subjective ou au niveau sonore aussi.
Voilà, exactement.
Tu vas voir quelque chose qui passe derrière toi et là tu es obligé de te retourner puisque tu ne vois pas derrière toi.
Exactement. Voilà.
Pivez, ça m'intéresserait d'avoir ton avis justement sur la question.
Bah, en fait, a priori, bon, moi c'est vrai que j'ai plus une culture cinéma là-dessus, mais j'appellerais ça simplement de la mise en scène, tout simplement. C'est vrai qu'il est plus facile pour un concepteur, je pense, de manipuler le joueur, de mettre en scène et de l'amener là où le développeur le désire, avec une vue à la troisième personne. Parce que en vue subjective, eh ben, s'il arrive quelque chose dans le dos, on le voit pas forcément. Il faut le temps de se retourner, donc ça dépend des jeux.
Ceci étant, mais dans ces cas-là, tu utilises le son.
Voilà, exactement.
Mais
c'est un
ceci
gros plus.
Étant, la peur n'est pas forcément liée à quelque chose que tu vois. Hein. Enfin, tu peux avoir peur de quelque chose que tu ne vois pas. Donc,
voilà, que tu entends.
Bah, juste... C'est le cas d'un des premiers jeux qu'on citera probablement parmi tous ceux dont on va parler, qui est Doom quand même.
Bien sûr. Je te confirme qu'on va en parler. Il y a pas de souci. Mais justement, ça, on reviendra là-dessus. On le voit d'ailleurs dans le cinéma, hein, Piv, que beaucoup de films, parmi les plus terrifiants finalement, sont ceux où on voit le moins de choses. Dans le jeu vidéo, on a un peu la tendance un peu inverse de un peu tout montrer.
Ça dépend du talent du réalisateur.
Voilà,
aussi. Parce qu'il y a des très mauvais réalisateurs qui vont être très explicites, effectivement. Bah, si on prend les vieux films italiens des années 80, comme ils en faisaient à la chaîne à l'époque. Les films de zombies, etc. Bon, bah voilà, c'est des films très gore et tout. Moi, je connais plein de gens qui se marrent devant parce que c'est quand même assez zed, c'est mal réalisé, c'est des petits budgets, donc les mecs se démerdent avec leurs moyens. Puis à côté de ça, effectivement, on aura des gros films bien carrés. Un film comme Alien, le premier Alien, par exemple, on voit quand même assez explicitement ce qui se passe pendant les meurtres, etc.
Et on voit
mais
pas
bon,
grand
là,
chose,
c'est clair, c'est Ridley Scott, le mec, il sait ce qu'il fait.
Et puis finalement, est-ce que la tension n'est pas instaurée au début où on ne sait pas ce qui attaque, on voit furtivement, et une fois qu'elle est là, on a peur parce que visuellement, c'est effrayant.
Oui, mais c'est vraiment un film d'ambiance, le premier Alien, à contrario, par exemple, du 2, Cameron, lui, il a décidé de le faire péter.
Ah bon
voilà. Donc, on n'a pas peur devant le 2. Donc, c'est vraiment deux approches différentes, mais pour un même thème, finalement. Donc, les réalisateurs ont beaucoup d'influence. À ce niveau-là.
Ce sera intéressant de le retrouver tout à l'heure quand on parlera, je crois, de Resident Evil aussi, qui a beaucoup évolué dans son approche.
Je pense qu'on peut clairement parler de jeu d'auteur. Ouais. Un jeu comme Silent Hill ou Resident, c'est avant tout Mikami, c'est avant tout Yamaoka. Voilà, c'est les mecs qui ont su apposer leurs pattes, quoi. Il y a un cahier des charges, à mon avis, les développeurs suivent.
Bah justement, rentrons dans le vif du sujet, abordons vraiment les premiers jeux qui ont marqué les pierres angulaires un petit peu de l'horreur en jeu vidéo. Et finalement, bah on s'est rendu compte quand même que c'était vraiment un jeu français, hein, Alone in the Dark, hein, de Frédéric Reynal, qui vraiment compte parmi, c'est tout simplement le premier titre, vraiment. Alors, il y en a eu d'autres avant qui jouaient sur le registre de la peur, mais c'est vraiment celui qui a apporté quelque chose avec cette vue en 3D, cette immersion, qui apporte vraiment un grand plus, Piv.
Tout à fait.
Comment il t'a pris par surprise ? T'es dégoûté.
Oui, tout à fait.
Non, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Reynal il y a 2-3 ans, ce que j'avais fait en hors-série pour MAD. Donc c'est un mec super passionné, et donc on est revenu longuement sur la genèse d'Alone in the Dark. C'était un peu le hasard, il m'a expliqué comment s'est fait le jeu. La licence Call of Cthulhu s'est greffée plus tard sur le jeu, car au départ lui c'est un gros fan de Romero, de zombies, donc de la trilogie des morts vivants, et donc c'était d'abord ça son jeu à Reynal, c'était de foutre un mec tout seul avec des zombies dans un manoir. Et d'ailleurs lui-même est étonné qu'on lui parle souvent de Cthulhu. Alors pour lui, il voit surtout des zombies et un mec.
Je resitue juste une chose, hein, au niveau historique, hein, on se trouve là en 1992, hein, il y a plus de 20 ans, hein, c'est ce qui permet de bien cerner un petit peu les choses, parce que les titres dont on va parler après, hein, qu'il s'agisse de Resident Evil, des Silent Hill, oui je sais, il y a
92, 20 ans. 20 ans, j'en connais un autre qui a des problèmes avec les chiffres. Je me comprends.
Mais j'ai toujours eu du mal avec les chiffres. Il y a beaucoup d'années, ce sera tout le temps à chaque fois les titres des Resident Evil qui sont sortis en 96, des Silent Hill qui sont en 99, voilà, autant de titres qui se sont vraiment imprégnés.
Moi, j'ai un souvenir très marquant par rapport à Lunes & Larc, parce que tout simplement, il y avait un salon en France à l'époque qui s'appelait le Super Game Show.
Ça fait 17 ans plutôt. Ouais.
Et donc, j'ai découvert le jeu pendant ce salon, parce que j'avais pas de PC chez moi. Et bon, bah, j'ai vu qu'il y avait 50 personnes autour d'un PC. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et en m'approchant, donc, j'ai vu Lunes & Larc, ça a été une claque directe. J'ai pu à un moment squatter l'ordi. Et je suis resté bloqué une heure dessus, quoi. J'ai halluciné.
Qu'est-ce qui faisait la différence finalement ? Est-ce que c'était vraiment la peur ? Est-ce qu'on ressentait cette angoisse ?
Le bruit du parquet.
Dans un salon, c'est difficile. Ouais. Parce que bon, il y a du bruit, il y a du monde, il y a des lumières. Ceci dit, moi, la chose qui m'a marqué à l'époque, déjà, c'est les graphismes. Honnêtement, techniquement, je trouvais ça mortel. Et puis le thème aussi abordé, des zombies, etc. C'était pas quelque chose de courant dans les jeux, quoi, à l'époque. Et voilà, tout simplement. Enfin, Infogram à l'époque, il avait vraiment bombardé dessus. C'était un gros projet pour eux. D'ailleurs, ça a cartonné. On connaît la suite. Mais voilà, Alone in the Dark.
Puis après, ils ont piqué le projet.
Je pense que voilà, ils se rendaient pas compte, à mon avis, qu'ils créaient un genre. Hein. Ils sortaient un truc pour marcher, pour apporter du fric. Mais c'est ouais, clairement, ils ont créé un genre avec ça.
C'est très intéressant ce que tu disais il y a quelques instants sur le côté jeu d'auteur, comme il y a tous ces films d'auteur d'horreur. Frédéric Reynal, les Mikami, les Yamaoka ont apporté vraiment quelque chose de très particulier. Pour toi, quelle serait justement la touche un petit peu de Frédéric Reynal
sur, c'est simple, d'après ce qu'il m'a dit. Donc son père avait un vidéoclub, il avait une boutique d'informatique qui faisait aussi vidéoclub. Donc lui, il s'est bouffé une tonne de cassettes. Donc c'est vraiment le parcours typique du geek qui a beaucoup de références culturelles là-dessus. Et voilà, donc lui qui fait zombie, qui fait Argento, il s'est dit je veux faire ma propre version de zombie. En plus, les contraintes techniques de l'époque donc l'ont servi finalement, puisqu'il ne pouvait pas animer 40 personnages à l'écran, donc bien il sûr. S'est contenté d'en faire un seul. Et puis voilà, donc il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est créée, ça a été du hasard, il y a eu de la chance. Et voilà, le résultat de ça. Et sa patte à Arnal, ouais, c'est clairement son influence des films d'horreur, je pense. Donc tout ça, voilà, il a créé un genre. Aujourd'hui, il est super modeste d'ailleurs là-dessus, il en est content, il en est fier, mais. Mais bon, il aimerait
un
bien
peu déçu, je crois, de s'être quand même fait vraiment phagocyter le projet par Bruno Bonnel. CAF.
Non, mais justement, il y a un milliard de trucs à dire. Et sur le projet d'un point de vue business, parce que Bruno Bonnel et Frédéric Reynal, c'est une grande histoire d'amour.
Oui, je crois.
Puisque, en fait, il s'est fait, pour la petite histoire, piquer effectivement le projet. Quand ils l'ont viré de chez Infogram, ils l'ont obligé à effacer les disquettes devant témoins, machin, etc. Pour pas qu'il puisse partir avec son moteur 3D. Reynal disant bah, attendez, les gars, c'est une version que j'ai fait en speed. J'en ferai un autre mieux, c'est pas grave. Et à côté de toute cette problématiques de personnes et de business, il y avait donc effectivement des problématiques techniques pour Reynal qui a fait un jeu avec un personnage mais aussi souvent un seul ennemi à l'écran. Il se passait pas grand chose, l'action était super lente et les décors étaient même pas en vrai 3D si ma mémoire est bonne.
C'était du bitmap.
Ouais. C'était du bitmap pour les décors avec juste les personnages en 3D, mais ça
on verra que ça en a inspiré d'autres un peu plus tard.
Ah bah complètement, parce que c'est une technique qui a été utilisée pendant hyper longtemps tant qu'on n'a pas eu la
avec efficacité.
Faire autre chose. Bah ouais, parce qu'on pouvait pas faire autre chose. On pouvait pas faire tous les décors en 3D à l'époque, c'était pas possible.
Jusqu'à Dino Crisis. Ce fantastique jeu.
Qui nous fait du mal.
Pour vraiment Alone in the Dark, ce qu'il faut se rendre compte, je pense aujourd'hui, c'est que alors. Il y a eu un travail de mise en scène finalement parce qu'ils ont pensé les plans en amont.
Ah bah
ils ont pas storyboardé, ils m'expliquaient ça. Ils ont pensé les plans en amont. Simplement, bon bah voilà, le personnage se déplace et les plans s'enchaînent. Donc on se retrouve avec un montage cinématographique. Ouais. Et ça a eu un gros impact sur l'industrie, je pense clairement, parce que on avait quasiment l'impression d'avoir un film interactif.
Ouais, mais attends, c'était un truc qui n'était pas nouveau, parce que c'est un truc qu'on avait déjà dans les jeux 2D, rappelle-toi, avec les trucs qui s'enchaînaient, parce que les flashbacks, Another World, c'était quelque chose.
Oui, mais c'était plat.
Oui, non, mais tout à fait. Mais finalement, c'était une construction.
Enfin, c'était comme des plans séquences, ça s'enchaînait. Quoi.
Voilà. Alors que là, c'est comme si on avait placé
là,
la caméra.
Il y a un vrai montage, voilà. Les focales changent, la hauteur de caméra change.
Les contre-plongées.
Contre-plongée, ça fait flipper.
Bien sûr.
C'est de la grammaire cinématographique en fait.
Là, il s'est marré parce qu'il y a des angles que tu peux pas faire en vrai en plus.
Exactement.
Donc, ça, c'est intéressant. Bah, ça marchait parce que du coup, tu avais cette ambiance déjà visuelle. Et au niveau du son, je me rappelle qu'à l'époque, c'était plutôt bien réussi malgré les bruits insupportables du mec quand il se faisait taper.
Et d'ailleurs, une version est ressortie en 96, je crois, avec des voix digit, etc. Et voilà, là, on peut dire que c'est la version ultime. C'est cette version-là.
La Director's Cut.
Exactement.
Director's Cut, l'édition. En tout cas, Pive, je reprends ta balle au bon de tout à l'heure où tu parlais de véritables films interactifs, puisque justement, derrière les Alone in the Dark, il y a eu pas mal, une flopée de titres qui ont surfé justement sur cette vague du CD-ROM, etc. Avec les Phantasmagoria en 95, Seven's Guest en 93, qui étaient des jeux pas fondamentalement terrifiants, soyons clairs, mais qui misaient en tout cas sur l'approche de l'horreur, de... Ça n'avait pas le mystère comme ça.
C'était deux genres en plus, c'était deux
fin de race, parce que Phantasmagoria c'était la fin de race des jeux en vidéo.
Voilà, la full motion vidéo.
Exactement. Ouais.
Donc là, on est vraiment dans le film interactif.
Exactement, avec des bons vieux effets de films de série Z, avec des maquillages.
Mais est-ce que c'était bien pour l'époque en tout cas? Est-ce qu'on avait une vraie immersion, une vraie ambiance?
Ça restait
une vraie peur.
Ça restait chapeauté.
Angel n'a pas l'air convaincu.
Souvenez-vous de Night Trap. Ouais, sur Mega CD, non, parce que finalement c'était le même principe.
Ouais, non, mais attention.
C'était la digite pure et dure.
Phantasmagoria, le problème, c'était quand même le scénario et c'était quand même avec notre amie Roberta Williams qui chapeautait toujours à l'époque les écritures des jeux Sierra et c'était quand même pas dément, quoi.
C'était quand même des jeux où on était relativement passifs. Hein. On regardait beaucoup de vidéos, donc préenregistrées, la FMV, et le bonhomme, bon, bah lui on le dirigeait, il était fait en digite, je crois. Ouais. Sur des décors en 3D ou en 2D, enfin voilà, ça s'arrêtait là, il n'y avait aucune mise en scène. Quoi.
Oui, non, mais justement, il y a eu des trucs en FMV qui étaient bien plus réussis que Phantasmagoria dans le genre.
Un jeu d'espionnage.
C'est horrible, me demande pas le nom parce que je ne vais pas le retrouver. Il y en avait un avec un détective privé qui était fantastique. Donc ça me revient pas.
Mais donc dans le genre horreur, en tout cas, ça n'a pas été très concluant. Alors que finalement, c'était peut-être un moyen assez habile aussi, justement, de mêler comme ça le cinéma et l'horreur.
Bah, le problème, c'était le gameplay. Ouais. C'était le problème du jeu vidéo, ça reste le gameplay, et là il n'y en avait pas terrible. Et Seven's Guest c'était pareil parce que c'était de la 3D et c'était un des premiers jeux sur CD et les mecs maîtrisaient pas, quoi.
Pif, tu
Phantasmagoria a bien marché derrière une suite, pourquoi? Parce que c'était gore en fait, quoi. Et puis que bon, bah il y avait un marché là-dessus, il y a toujours un créneau d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est des jeux quand même qui se vendent bien, un jeu comme Dead Space récemment. Il n'y a pas eu les ventes que Electronic Arts désirait, mais ceci dit, bon, ça reste du blockbuster. Et à l'époque, Phantasmagoria avait vraiment cartonné, quoi. Je veux dire, ça s'était bien vendu et il se vendait là-dessus, sur sa réputation sulfureuse.
Non, mais tu restes
après sur du gameplay, c'est clairement ça a pas d'intérêt autre que de regarder une séquence vidéo gore, voilà.
Puis justement, je crois qu'il y a un jeu là qu'on n'a pas cité, mais sur lequel il serait intéressant de revenir. C'est le premier jeu d'Eric Chahi, qui lui aussi jouait vraiment dans la cour de l'horreur. Il s'agit du Pacte, c'était sur CPC. Alors de quoi il s'agissait?
Donc c'était une adaptation non officielle d'Amityville. Ouais. Donc Eric Chahi, pareil, que j'ai eu la chance de rencontrer, on en a parlé un petit peu. M'expliquait à l'époque qu'il s'en foutait, il était jeune, le film il l'avait trouvé bien. Mmh. Bon bref, il a fait ça à la Eric Chahi, tout seul chez lui, il s'est dit « je vais refaire Amityville ». Et bon, moi j'ai eu l'occasion d'y jouer, mais avec beaucoup de retard. Ceci dit, le jeu avait plutôt bien marché, relativement, parce que bon, ça se piratait beaucoup à l'époque sur CPC. Il avait été bien piraté, le jeu, on va dire. Et voilà.
Ce qui est un bon signe.
Exactement. Et le Pacte, bah, en fait, voilà, tout simplement, dû aux contraintes techniques, encore une fois, du CPC, bah, le jeu dégageait une ambiance malsaine parce que bah, il laissait l'imagination travailler beaucoup. Beaucoup. L'imagination remplace toujours ce qu'on vous montre aujourd'hui en HD sur les écrans de domaine. Mmh. Et voilà, le Pacte, bon, ça reste anecdotique, hein, mais voilà, le premier jeu d'Eric Chahi, c'est un jeu tiré d'Amityville, quoi.
Justement, là, tu parles de télé HD, etc., de ce qu'on nous montre. Est-ce que unanimement, je crois qu'en tout cas, à ce moment du podcast, pour les personnes qui aiment les jeux d'horreur ou ceux qui, en tout cas, auraient envie de s'y essayer, avant qu'on vous parle des Resident Evil, des Silent Hill, des Eternal Darkness, des Doom, bien sûr, des Condemned, de dire à quel point c'est des jeux, peut-être beaucoup plus encore que beaucoup d'autres styles de jeux, dans lesquels les conditions d'utilisation ont un véritable impact sur l'expérience, sur le ressenti qu'on peut avoir. En gros, jouer à un Resident Evil en pleine journée l'été n'a pas du tout la même force d'immersion que ça peut avoir, Pive.
Oui, c'est vrai, c'est des jeux qui, dans les meilleures conditions pour les pratiquer, c'est l'idéal, évidemment, c'est d'y jouer en pleine nuit, tout simplement, avec un casque sur les oreilles.
J'aurais une anecdote énorme à raconter
d'ailleurs,
à ce sujet-là.
D'ailleurs, c'est simple, je veux dire qu'on va voir un film au cinéma, bah, y a pas de mystère, on se retrouve dans la pénombre et on se prend le film en pleine gueule, et c'est pareil pour les jeux, quoi.
Kaf, tu veux...
Bah, c'est ce que je mets dans chaque test dans Fear 2, je l'ai réécrit, et c'est ce que je remets dans chaque test du genre. Et si on y joue en open space en pleine journée sur la pause du midi, et ça tue le jeu, c'est pas possible qu'on rentre dans le trip de ce que le mec a voulu faire vivre avec son jeu. Donc il faut être un minimum compréhensif avec le produit aussi.
Allez, on va rentrer dans ce que probablement la plupart d'entre vous, c'est peut-être la première expérience de l'horreur sur console et sur PC aussi. Bon, il est sorti bien plus tard, mais 96, l'arrivée de Resident Evil, la création.
Non, tu peux pas dire ça. La première expérience, c'est Doom. Pour moi, c'est Doom.
D'accord. Alors, c'est qui est effectivement un petit peu avant, puisque c'est en 93. Mais là, c'est sur PC. Alors, parlons de Doom, effectivement.
C'est un des rares jeux, parce que moi, personnellement, je suis pas très, très jeu d'horreur et je sursaute peu. Enfin, je rentre pas facilement.
T'es vachement courageux, en fait.
enfin bon, ça me fait pas, ça me fait pas beaucoup beaucoup d'effet les jeux à sursaut, les types Grand 8. Après les Silent Hill, etc., c'est autre chose.
On reviendra dessus.
Mais putain, Doom. Ah ouais, non, mais Doom. Et Traz serait là, bon, il a pas pu passer, mais ça, c'est lui, il est d'accord aussi avec ça.
C'est alors Doom, pour Traz, c'est, sursaut, hein, c'est sa première vraie grosse peur.
C'est ça.
Sans aucune contestation, bleu zippo.
Bleu
très
zippo.
Bien. Voilà, si vous parlez le Traz, bah, envoyez-nous des mails. On ne sait pas.
Bah ouais, parce que c'est de la vue subjective, c'est peut-être un des premiers jeux vraiment très 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 joué qui a marqué beaucoup avec cette vue subjective. Et puis je sais pas, tout le monde se souvient des cris des imps qui étaient dans des pièces adjacentes où t'avais peur à chaque fois d'ouvrir une porte parce que tu te disais que t'allais te prendre une boule de feu et un truc qui gueulait.
Mais moi
dessus,
ça m'a jamais fait peur.
Moi je m'en
en fait.
Souviens pas, tu peux me le faire. Sans déconner, je m'en souviens pas.
Ok, bah écoute, tu l'écouteras sur le net alors.
Non, que... vas-y, fais-le, je suis sûr que t'as un super imitateur.
Non, pas du tout.
Mais ça, en tout cas, je trouve ça très intéressant parce que tout à l'heure, on parlera de titres qui se jouent plus, on va dire, à la troisième personne. Mm-hmm. Moi, par exemple, cette vue-là, subjective, commence aujourd'hui à me faire peur sur des titres modernes où vraiment l'immersion est très forte. Bah, un Fear, par exemple, je trouve bien plus terrifiant. Alors que Doom ne m'a strictement jamais fait peur.
Tu avais joué à l'époque
hein. Ouais, j'y jouais à l'époque. Et pour moi, c'était vraiment un bad shooter, un très bon shooter, mais en tout cas, je l'ai jamais considéré comme un jeu d'horreur.
Putain, moi ça m'a
à mes yeux.
Flippé, mais.
Caf.
Non, mais justement, j'ai pas eu peur non plus.
Pareil. Moi, je trouvais ça trop. Enfin, excuse-moi de.
Non, mais tu m'as coupé, c'est pas grave.
Vas-y, fais, je t'en prie.
Non, mais vas-y, je t'en prie.
Bon, les gars,
arrête, nous on est des gens polis, voilà. Ouais, c'est tout.
En fait, je trouvais ça trop caricatural dans le design et tu vois, ça faisait un peu le train fantôme de la foire du trône.
Oui, moi je courais tout le temps.
Et donc, du coup, tu vois, le train fantôme, ça me fait pas peur, ça me fait rire. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, je suis pas belge.
Moi, ça me fait aussi peur que Resident Evil 5, quoi, par exemple. C'est-à-dire, tu cours, tu shootes.
Non, parce que tu sais pas. Enfin, c'est très compartimenté comme jeu. En fait, tu passes d'une salle à des couloirs à une autre salle et tu sais pas ce qui va te tomber dessus, c'est tout.
Tu sais qu'a priori, il y aura des monstres qui vont faire. Et toi, tu vas te faire.
C'est comme ça
à l'époque. Et là, on en revient au fameux suspension of belief.
Disbelief.
Parce que effectivement, t'es pas du tout,
Oh merde.
Il fait le signe, genre t'es bourré ou quoi.
Non mais je veux dire, tu peux être vachement sensible à un certain type de peur et.
Ah mais parce que non mais, quoi, mais justement, je trouve que la force de la vue subjective, c'est quand elle est totalement immersive, que ce soit visuellement ou au niveau du son.
Elle est faite pour ça à la base.
Voilà. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où elle le devient totalement. Et là, vraiment, c'est un ajout énorme, mais à l'époque pour moi c'était vraiment trop peu évolué techniquement pour justement me créer cette impression d'immersion que la vue à la troisième personne pouvait faire, même quand c'était techniquement un peu moins performant qu'aujourd'hui. Caf.
Bah, non mais je pense que après c'est vraiment la façon d'y jouer. Moi le seul truc qui m'a fait peur finalement dans le jeu, c'était d'être en panne de roquettes.
Oui. Ouais, y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que moi quand j'y jouais au départ, il y avait pas de souris. Je me souviens que c'était au clavier et que donc quand il y avait un truc qui te fonçait dessus vraiment très vite, c'était pas très très maniable.
On jouait très très peu à la souris à l'époque encore. Ouais. C'était encore l'époque
ça
clavier.
Ça peut justement faire flipper le fait que
mais c'est ça, c'est que tu dis j'ouvre cette porte, il va y avoir un truc qui va dire ah, tu perds tes moyens quoi. Donc il y a ça et j'ai surtout le souvenir en fait.
Non.
Oui. Je parle de sursaut. C'était pas effectivement, c'est pas une peur qui t'attend. Tu restes voilà, tu t'attends. Enfin, tu sursautes quoi, et j'ai surtout un souvenir en fait plus précis finalement presque de l'ambiance sonore pour installer ce sentiment-là que du jeu lui-même. Et
avec
de...
la musique relou.
La musique relou, les bruits, tu sais pas trop parce qu'il n'y a pas de son spatial non plus à l'époque, donc tu sais pas si c'est devant, derrière, à gauche, à droite.
Et la gueule du personnage toujours en train de bouger les yeux de plus en plus avec du sang sur sa gueule comme ça.
Sans que je regardais jamais l'interface, mais.
Non, mais c'est moi je l'associe plus à du stress, parce que c'est un truc qui a été repris dans les gros shooters, qui sont pas des trucs qui font peur, mais que tu vas retrouver dans Painkiller ou dans Serious Sam, où on va te stresser à base de milliards d'ennemis qui t'arrivent dans la gueule sans arrêt. Mais c'est pas de la peur. Alors bon, Painkiller, scénario, c'est les enfers qui arrivent sur Terre, tout ce que tu veux. Au final, t'en as rien à secouer. T'as des monstres qui sont un peu plus flippants que d'autres parce que ils sont plus forts, etc.
L'imagerie est horrifique, mais ça fait pas peur.
C'est pas du tout. On est à des milliards d'années-lumière d'un Resident 1, 2, machin, d'un Silent Hill, ce genre de truc.
De toute façon, Doom n'a pas été
dans le stress, quoi.
Il a pas été fait pour être un jeu d'horreur.
Bah, ça reste une imagerie, quoi. Parce que Doom 1, Doom 2, Doom 3, si tu veux, ça reste.
Ouais, c'est satanique, machin.
C'est satanique, tout ce que tu veux, mais voilà, quoi.
Angel.
Non, et moi je dirais, bon, déjà, évidemment, ça n'a rien à voir parce que déjà, c'est de la vue subjective. En 3D, ça n'a rien à voir avec Resident Evil et Silent Hill, parce que c'est de la vue subjective en 3D, et puis surtout, comme on revenait, quoi. Silent Hill et Resident Evil, enfin, moi je m'y connais quand même vachement moins que Piv, mais c'est directement influencé par le cinéma, quoi, aussi, dans la mise en scène, justement.
Puis t'as des t'as, comme il expliquait tout à l'heure, il y a des cadrages de caméra, bah, ouais, travaillé à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas d'une vue subjective où c'est le joueur qui contrôle la vue.
Finalement, les codes dans le survival à la Resident, Silent Hill et compagnie,
bah justement, là.
C'est surtout des codes de cinéma et pas de jeux vidéo finalement.
Je pense que Doom, surtout, c'est un univers fantastique, donc ça peut se rapprocher effectivement du cinéma de genre. Mais pour moi, ça s'arrête là. En tout cas, à mon avis personnel, moi je trouve ça assez beauf. Le jeu en lui-même est bon, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème niveau gameplay, bon voilà, c'est Doom quoi. Mais bon, ça reste assez bourrin. C'est du FPS. Et ça sera un peu pour moi, voilà, ça sera un peu pour moi l'ancêtre de Gears of War, on va dire, parce que c'est un design, c'est un design, chara-design bourrin, beauf quoi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais bon,
c'est
voilà.
C'est un design texan quand même à la base, faut le rappeler.
Oui, non mais voilà, tout à fait, Romero.
Et là,
compagnie.
Tout est dit.
D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'un des créateurs s'appelle Romero.
Non, mais il a rien fait, il a juste fait des niveaux, faut arrêter avec voilà. Romero. Mais surtout, le Doom vaut tous les jeux de la Terre, c'est les premières fois où j'ai vu des gens bouger devant un PC pour éviter les roquettes.
Oui.
Et ça, franchement, mais quelle crise de rire. Avec les gens qui bougeaient, avec
l'écran.
Pourtant,
des années avant, les gens bougeaient leurs mains en sautant avec Mario.
Je t'assure,
ouais, c'est l'accompagner.
Exact.
Je peux
mais
t'assurer
là,
que
énorme.
Ma mère, en jouant à Petit Franck, elle bougeait. Hein. Et c'était à l'époque du
CD. Mais attends, j'ai un pote qui a failli se casser la gueule de son siège. Bah, voilà. Et ça, c'est surpuissant.
Mais je pive.
Je pense qu'il faut replacer Doom dans son contexte. C'est clairement une pierre angulaire, etc. Ça a créé un genre aussi, d'ailleurs. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y
ouais,
en a
si
eu
si.
Avant.
Bon, il y en a eu avant,
mais
c'est
ça l'a démocratisé, voilà. Mais le gameplay aurait pu se prêter à de la SF, à un autre univers que fantastique.
D'ailleurs,
donc,
il a été déployé sur toutes sortes de jeux. Exactement. Juste après, justement.
Tout à fait.
C'était important de souligner qu'en 93, Doom existait.
En tous les cas, pour certains, voilà.
Bah
ça
non, mais bien sûr. Évidemment.
C'est peut-être un détail pour nous, mais pour Raon, ça veut dire beaucoup. C'est
exactement. Et ça nous fait plaisir. En plus, pour Raon, écrase, hein, sans aucune contestation, Bleu Cipo, bien sûr. Oui. mais on en revient quelques minutes en arrière. En 96, Resident Evil arrive et crée le titre de Survival Horror, cette mention incroyable qui aujourd'hui est malmenée, hein, par son propre créateur, Resident Evil 5. Mais pourtant, à l'époque, hein, Mikami a créé un véritable monument du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo quand même. C'est probablement le premier titre qui a vraiment, en tout cas, su créer de manière au grand public ce véritable effroi, le démocratiser surtout, et voir autant de références cinématographiques à l'intérieur. Pive, je crois que justement, il y en a une qui est évidente. Hein. D'ailleurs, tu parlais de ce nom il y a quelques instants pour un développeur.
Voilà, donc Romero,
mais là, il y a le cinéaste.
Donc, ouais, tout à fait. Donc Mikami ne s'en cache pas d'ailleurs. C'est un grand fan de George Romero, donc le réalisateur de la trilogie. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a 5, on peut dire. Ouais. Voilà, exactement. Et voilà, tout simplement.
Trilogie des
morts vivants.
Ouais, des morts vivants. Ouais.
Et donc le dernier, Diary of the Dead, qui est sorti l'année dernière. Que dire de plus, je veux dire, bon, Mikami a toujours affirmé qu'il n'avait jamais joué à Alone in the Dark.
Oui.
Bon.
Que s'il se serait inspiré d'un jeu d'horreur sur NES.
Oui,
japonais.
Voilà, un truc qui s'appelait Sweet Home. Alors d'ailleurs, voilà. Pour la petite histoire, Sweet Home était un film de Kiyoshi Kurosawa qui est sorti uniquement au Japon, je crois, ou du moins en Asie. Et le jeu sur NES était l'adaptation du film.
D'accord.
Mais bon, ça reste assez anecdotique, c'était un petit jeu sur NES, mais déjà c'était un peu gore, etc. Et donc voilà, pour revenir à Resident, bah Mikami, il s'est fait plaisir tout simplement. Moi, je suis persuadé qu'il a joué à l'autre perso, parce que d'ailleurs,
techniquement, c'est exactement la même approche. Hein. C'est donc décor
complètement. Voilà, il a profité du succès de la PlayStation pour que ça cartonne dans le monde entier. Et maintenant, ce qu'on peut pas lui retirer, bah, c'est qu'il a fait un jeu ultra efficace. Quoi.
Avec talent. Ouais. Même si pourtant ça part avec un petit film. Enfin, il y a plusieurs.
Il l'a tourné lui-même. D'ailleurs.
C'est lui qui l'a tourné,
ah, oui,
c'est Mikami.
Fait, il l'a dit,
Wesker, ouais. Qui s'allume une clope avec sa coupe de hérisson. Là.
qui s'allume une clope que dans la version américaine non censurée, hein, parce que ça avait été justement retiré, c'était masqué avec les chiens.
La
avec
version, moi, je jouais sur la version japonaise. Ça y était, en tout cas.
Ouais. Non, mais c'est.
Non, non. Il a reconnu l'avoir tourné lui-même, et d'ailleurs, il a reconnu aussi que les acteurs n'en était pas vraiment, hein. Bon, on s'en était douté, mais effectivement, voilà, c'est un petit truc, il s'est fait plaisir, je crois, il a pris son caméscope, ils se sont dit allez, on se fait plaisir.
Pour toi qui as une vision vraiment très très vaste du cinéma d'horreur, du cinéma de genre, comment on pourrait situer Resident Evil là-dedans? Je parle bien évidemment pas du tout des films, hein, qui ont été inspirés plus tard, mais qu'est-ce qu'il a absorbé comme bonne ficelle?
Au niveau des codes, je sais pas, là c'est une vaste question, mais moi j'ai toujours un souci par rapport à Resident, parce que on dit que c'est l'inventeur du survival horror. Pour moi, non, c'est Alone in the Dark, clairement, qui a inventé le genre.
C'est démocratisé, on va dire.
Voilà.
Même si c'est pas un terme
tout
très
à
français,
fait à travers la console, exactement.
Oui, démocratisé.
N'empêche que, enfin, moi perso, j'ai joué à Alone in the Dark à l'époque.
Julo.
J'ai pas eu peur. J'ai joué à Resident Evil, j'ai complètement flippé quoi.
Voilà,
donc il y a quelque chose quand même qui s'est passé entre les deux.
Il y a 4 ans qui les séparent, donc forcément.
La puberté d'Angèle.
D'un point de vue technique, il y a quand même 4 années et c'est pas rien hein, entre un PC 486 et une
bien
PlayStation.
Sûr.
Donc oui,
le son aussi,
voilà, exactement. Resident Evil est
là,
quand même aujourd'hui.
Sonore, le manoir.
En y jouant sur un écran cathodique, ça reste joli quoi.
Tout le monde y a à peu près joué à Resident Evil 1 ici. Quels sont, pour vous, ça m'intéresserait de faire un petit tour de table à repasser, d'avoir peut-être votre souvenir le plus évident, peut-être que certains vont se recouper. Hein. Caf, c'est marrant, vu ta tête, je ne sais pas du tout ce qu'il va pouvoir bien dire. Ça, à mon avis, se passe dans un couloir, il y a une fenêtre. Ouais.
Non, mais parce qu'en plus, j'en profite pour la placer maintenant, parce que c'est un des rares trucs que j'ai vu du jeu. Parce que donc, j'avoue, hein, j'ai fini zéro Resident Evil. Je déteste le gameplay des Resident Evil, voilà, c'est dit. Et j'ai l'impression de diriger un camion de 15 tonnes. Moi, j'aime
le gameplay. Je suis avec lui aussi.
Voilà.
Ça vous gênait déjà à l'époque ?
Oh, oui. Ouais.
Oui, monsieur.
Moi, je joue à Doom depuis 93, justement, tu vois, donc c'était insupportable. Mais en revanche, qu'est-ce que j'ai flippé quand ces connards de chiens sont passés par la fenêtre.
Il y avait ça. Et
est-ce que c'est pas quand même l'une des scènes les plus mythiques de l'histoire du jeu vidéo hein,
bah, c'est une des rares dont je me rappelle, mais hyper nettement. Tu
pourtant,
vois.
Elle est simple. Hein,
ah, c'est tout con. C'est
et
un
puis
couloir.
Elle fait pas qu'une fois. Hein.
Si je dis pas de conneries, c'est du fond de l'écran. T'avances.
Ah ouais, ouais.
Et tu te rapproches en fait du joueur, non ?
Ah bah, en fait, non. Au début, ça commence de dos.
Voilà. Tu
on avance
caméra.
Et puis au moment où il y a le chien, on dépasse cette fameuse fenêtre qui explose avec un Doberman qui tombe. Du coup, on court et du coup, la caméra change d'axe et on te voit courir, genre te rapprocher de l'écran.
Ce qui est assez marrant, c'est que dans le remake qu'ils avaient fait sur GameCube Fantastique, ils avaient changé la fenêtre, hein, c'est ça ?
Alors, bah, en fait, la fenêtre, il y a un éclat de verre qui part et on croit
ça.
Que. Et en fait, il ne se passe rien.
C'est presque
et c'est
parodie,
la fenêtre d'après qui explose.
C'est la fenêtre d'après qui explose, voilà, c'est ça.
Non, mais l'épisode que nous, à Joypad, on avait appelé Rebirth, c'est que.
Qui a été repris.
Étrangement, ça a été repris un peu partout.
Dans le monde entier.
Alors que c'est pas du tout Rebirth, puisqu'on s'était même fait taper sur les doigts par Capcom qui nous avait dit surtout pas, faut pas l'appeler comme ça. Pour l'anecdote. Et probablement le. De la série principale, le meilleur Resident. Il avait apporté tellement,
c'est
mais on reviendra
c'était
dessus
sur quelle
tout
plateforme
à l'heure. Sur GameCube. Épisode Rebirth, c'est pas qu'un remake, hein. C'est une autre expérience du Resident Evil 1 avec Lisa Ashford, enfin, qui c'est mêlait un peu de l'ambiance
jouer,
Silent Hill.
On peut encore y jouer aujourd'hui, ouais. Je pense, parce qu'il était déjà vraiment super beau à l'époque. Aujourd'hui, ça tourne sur une Wii, sans problème. Franchement.
Avec ce concept des décors en 2D, mais qui intégrait là sur GameCube des vidéos, genre les flammes qui s'animaient.
Mais
magnifique,
c'était super beau.
Magnifique,
super beau.
Ouais.
Ça avait l'air bien. Hein.
Une gestion de l'horreur absolue.
Non, parce que justement.
Mais c'est toujours la même jouabilité, Caf.
Et c'est pour ça, moi, j'ai essayé, suite à nos conversations et à la préparation du podcast, je me suis remis, parce que je l'ai acheté quand il est sorti d'ailleurs, en Resident 4 sur GameCube. Et là, j'y joue avec un bon Wavebird. C'est la version GameCube sur Wii, parce que je n'ai plus de GameCube. De GameCube. Ouais,
C'est différent de Resident 1 déjà, hein. La jouabilité a bien évolué.
C'est vachement mieux, mais j'ai toujours l'impression de garer un 15 tonnes dès que je veux me retourner. Quoi. Enfin, maintenant je sais, il y a un raccourci bouton.
Ne joue vraiment pas Resident Evil 5, hein. Même s'il y a 4 jouabilités différentes, même
je
la plus.
J'ai essayé et non, la démo m'a suffi. Quoi.
Ça. Mais on est en train de s'éloigner un peu parce qu'on était un peu sur les souvenirs quand même de Resident Evil 1. On a eu donc ce moment clé hein, qui est effectivement, je crois, pour tous, hein, le premier frisson. En tout cas, si personne ne vous l'avait spoilé avant, parce que c'est vrai que dans les cours d'école à l'époque, machin, tout le monde dit t'as joué à Resident, un moment, il y a une fenêtre.
Bah, c'est dans la première heure de jeu. Donc,
voilà. Julo, peut-être un autre moment.
Mais non, mais t'as le premier moment où tu vois un zombie aussi, où tu comprends pas trop ce qui
se passe. Avec
hein,
la tête qui se retourne. Ouais.
Exactement, avec la première cinématique du jeu. Moi, pour moi, ça a été un moment, un choc aussi. Ça m'a mis directement dans l'ambiance et voilà.
Avec ces nappes sonores très étouffées et puis ces râles de zombies qui arrivaient, qui étaient lents, un
et
peu
puis
pâteaux,
tu devais reculer ça en tirant sur le zombie. Et je sais pas, pour moi cette première scène elle est fantastique.
Caf.
Moi j'ai flippé quand j'ai compris que c'était Rick Cazaray qui me soignait avec les plantes. Pardon.
Il fallait que je la fasse.
Non, moi je me rappelle d'un moment qui se trouve à peu près, on va dire, à la moitié de Resident Evil 1 et que j'avais trouvé absolument génial. C'est quand on revient en fait de la petite maison où il y avait la grande plante, on revient, etc. Et puis là, il y a une cinématique qui part et on est en vue subjective d'un monstre qu'on ne connaît pas du tout.
Le Hunter.
Le Hunter qui va super vite et qui, à la fin, ça finit par ce plan sur la porte parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que ce truc en vue subjective avec des grosses griffes. Et en fait, on est dans un couloir, on ne peut pas le voir, on entend juste les pas, genre POC, POC. Et puis là, il crie, il saute. Et puis si vous le ratez la première fois, il vous décapite direct.
Il vous décapite direct.
Oh, c'est horrible.
Il y a un moment d'ailleurs, alors, dans ce jeu culte dont Caf parlait, Resident Evil 4, qui est vraiment, vraiment génial. Le passage certainement qui m'a fait le plus flipper, c'est un passage qui ressemble beaucoup à celui-là. C'est le moment où tu arrives dans les égouts. Et qu'il y a ces fameux monstres invisibles qui arrivent.
Espèce de sauterelle invisible.
Et donc, tu es dans les égouts, il y a un petit peu de flotte par terre. Et tu entends « ploc, Et le mec il te court dessus, ouais. Tu te retournes, il y a personne, et c'est des monstres invisibles, et ça j'adore.
Il y a une grille qui tombe en fait, et puis on les voit pas, voilà. Puis on sait pas.
Il y a peu de passages vraiment flippants dans Resident Evil 4, mais alors celui-là, c'est une espèce de peur panique qui vient comme ça, clairement. Parce que tu entends mais tu ne vois pas. Ça c'est fort.
On est d'accord. Alors 96, donc c'était Resident Evil, il a vraiment posé les codes, que ce soit techniquement, hein, ça a été repris par énormément de choses, d'autres jeux qui s'en inspirent ou pas, hein, mais c'était vraiment la mode un peu des décors en 2D et des personnages intégrés en 3D. Ça a perduré après avec le deuxième épisode qui était plus action, hein. Déjà on avait une volonté. Pif, peut-être que ça peut s'expliquer déjà.
Oui, c'est une suite, comme on dit, better, louder. Ils se sont dit, on va y aller à fond, quoi. De toute façon.
Bon, badass, quoi, un peu.
Exactement. Ouais. Bah, en fait, alors là, pour le coup, pour le 2, on pencherait plus du côté de Assaut de John Carpenter, qui a été remédié par un Français, là, il y a quelques années. Donc voilà, le commissariat pris d'assaut, le mec qui est enfermé tout seul dedans. Avec sa bite et son couteau, excusez-moi.
Même s'il y avait aussi une jeune femme.
Oui, tout à fait. Après, on croise plein de secondes, mais bon.
C'était
voilà,
pas un couteau, ça.
J'ai déjà beaucoup moins flippé dans le 2.
Ouais,
et
bah,
à vrai
clairement.
Dire, en fait, la série des Resident, pour moi, c'est. Voilà, j'ai flippé de moins en moins à chaque nouvel épisode.
La série des Resident, excusez-moi, en fait, elle fonctionne beaucoup sur les sursauts, comme disait. C'est vraiment un genre. Donc, dans le cinéma, on parle de jump scare. Donc le coup du chat noir qui apparaît, voilà. Donc ça c'est un gros cliché des films d'horreur, limite ça a été parodié des milliards de fois, et voilà, Resident c'est ça, c'est vraiment l'incarnation du jumpscare jusqu'à son maximum, quoi. C'est vraiment une succession de calme et boum, il y a un monstre qui apparaît, une porte qui s'ouvre, et ça enchaîne sans arrêt comme ça. Donc effectivement ça diffuse pas une peur comment dire, progressive, c'est vraiment pas diffus, c'est hollywoodien.
C'est hollywoodien, du cinéma américain, mais Resident c'est TV. Plutôt bien fait, je trouvais, surtout avec l'ambiance sonore qui était assez travaillée quand même, avec les musiques qui étaient vraiment prenantes, l'ambiance visuelle aussi qui était très immersive. Moi, dans Resident Evil 2, quand même, l'apparition des premiers leakers, ces espèces de monstres là qui sont sur les plafonds avec leurs grandes langues, voilà, c'est assez effrayant quand même.
Pendant l'intro, oui, c'est pendant la première heure de jeu, ça reste une cinématique culte, ouais, effectivement.
Et je vous rappelle quand même que dans Resident Evil 2, si vous regardez bien et si vous faites un arrêt sur image de la première cinématique, c'est dans Joypad la première fois qu'on vous le disait, mais il y a une plaque de rue qui est une plaque française et ça s'appelle la plaque, si vous zoomez, il y a marqué Place François Mitterrand. Et quand même, ça c'est absolument mythique dans Resident Evil 2 et ça c'est unique.
De toute façon, Resident Evil 2,
oui Angel,
c'était une vraie leçon d'architecture pour tout le monde. Hein. Souvenez-vous, le passage secret dans le commissariat.
Non, puis quand même, dans le 2, il y a eu l'apparition du Némésis.
Enfin, c'est dans le 3.
Oui, mais l'espèce de Terminator qui défausse les murs, c'est bien dans le 2. Alors, c'est quoi ? C'est pas un Némésis, mais c'est un espèce de Terminator. Je sais pas comment on pourrait appeler ça.
C'est un mec qui défausse les murs.
Oui, il vient bien du 2 pour moi.
Et franchement, ça, c'est des passages très angoissants.
Voilà, il est à la source de ouais, vraiment.
Faut dire que c'est vrai,
bah,
tu parles du Némésis. Dans le 3, c'est vrai que ça, c'était une source de flip assez énorme. Quoi.
Ah, mais le 3 est un jeu très action aussi, mais alors très très stressant. C'est-à-dire, avec ces moments où, effectivement, donc, le Némésis arrive, les moments où on a des choix à faire. Très très rapide. Moi j'ai trouvé que le 3 justement revenait, était beaucoup plus terrifiant que le 2 qui se vivait effectivement comme 2, ouais. un grand film d'action un peu horrifique. Le 3 était vraiment angoissant.
Mais le 3, moi je l'ai vécu comme un truc un peu trop calibré et tout ça en fait. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à tout.
Il y a des passages très forts quand même.
Il y a des passages très forts, mais je sais pas, ouais. il était calibré quoi. Mmh. Et j'avais l'impression qu'on me servait ce qu'il fallait me servir. Tu vois ce que je veux
dire ? Il était un peu fan service, on revenait dans des lieux qu'on connaissait aussi par le passé, etc. Non, je comprends ce que tu veux dire. Juste, je reviens un petit peu pour les fans aussi, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui s'est passé qui était assez intéressant. C'est entre Resident Evil 1 et Resident Evil 2, il y a eu ce fameux Resident Evil 1.5 qui est en fait une version qui avait été quasiment finalisée de Resident Evil, ce qu'aurait pu être Resident Evil 2, et il se trouve qu'en fait toute l'équipe initiale a été débauchée par Square pour faire Parasite Eve, et que le
un grand jeu,
un RPG d'horreur en fait, comme d'ailleurs Square.
Je plus sois, voilà. C'est étonnant de ma part, mais vraiment je plus sois à mort.
Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Square le vendait comme un RPG horreur RPG, etc.
C'était
le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce 1.5, il y avait pas mal de choses qui finalement n'ont jamais été repris et qui poussaient assez loin le concept de l'horreur avec des zombies beaucoup plus diversifiés, des zombies enfants, des zombies femmes. Il y avait aussi le coup d'avoir les habits qui s'abîmaient, où on voyait les morsures, autant de choses qui n'ont pas été reprises. C'est un petit peu dommage ça, Pive.
De toute façon, je repensais aux deux, là, je me dis, puis entre-temps, quand même, ils ont été chercher Romero, quoi. Capcom, là, Mikami a dû dire, bon, allez, maintenant, faites-moi plaisir, parce que ça devait être déjà... Il devait avoir son mot à dire, je pense. Ils sont carrément allés chercher donc George Romero, le réalisateur de la trilogie Les Morts Vivants, pour réaliser des pubs
Japonaises, au Japon,
donc,
ouais.
Voilà. Alors ça, voilà, si on peut pas faire plus explicite comme hommage.
Clairement.
Quoi.
Ouais. Puis il y a un autre hommage aussi, mais cette fois plus aux dents de la mer avec l'espèce de méga crocodile dans lequel on doit mettre la bonbonne.
Oui, ou le requin tout simplement dans le 1 déjà, une espèce de requin géant. Oui, c'est vraiment.
Le Neptune.
C'est l'univers de Resident Evil, un univers très fourre-tout. Je pense qu'ils y mettent tous un peu leurs références culturelles, etc. Mikami en tête, évidemment. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause aujourd'hui. Son univers est compliqué. Scénaristiquement, ça devient un vrai bordel. Il y a des incohérences de partout. Le scénar, il prend l'eau, quoi. On peut le dire. Mais bon, ça vient de tout ça, de toutes ces influences. Mais bon, c'est une des meilleures séries. Hein.
C'est ce qui fait le charme un peu.
Exactement, c'est un style.
C'est le scénario qui prend l'eau, voilà. C'est comme dans les films du genre.
Voilà. C'est carrément pas réaliste et on accroche.
À ça que ce soit pas réaliste, ça nous sommes d'accord.
Et pourtant, moi, à chaque fois que je vois Wesker qui apparaît, ça me fait triper. Voilà. Wesker, c'est un personnage fantastique.
Alors, on rappelle très furtivement, pour ceux qui peut-être vont découvrir Resident Evil avec le 5e épisode, hein, c'est possible aussi.
Les pauvres.
Oui, un peu. mais bon, chacun son choix. Wesker, donc, est arrivé dans le tout premier Resident Evil, il était là, capitaine de patrouille des Stars, donc un membre d'intervention. Il meurt dans le premier épisode.
Tout à fait.
Et il revient en fait dans Code Veronica, qui est un grand épisode, hein, le premier des Resident à arriver avec la 3D intégrale. Julo, je crois
un de mes préférés, tout simplement. Ouais. Franchement, hein, moi, après Resident 1, moi je mets Resident Code Veronica.
La 3D intégrale, mais en plan séquence quand même, il me semble.
Bien sûr.
Voilà, on n'avait pas d'influence.
Ouais. Mais quand même.
Avec des travelling,
ça, c'est ajouté, ouais. C'est ajouté au niveau de la mise en scène, en fait. Voilà.
Avec ce grand personnage qui est Alfred Ashford.
Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire.
Là, c'est plus psychose.
Exactement. Il y a un côté un peu plus adulte, je trouve, dans Code Veronica. Il y a un côté plus. Je le trouve plus intéressant vraiment que tous les autres.
Il y a des références hitchcockiennes évidentes. Hein.
Non, parce que justement, ouais, on parlait de références. Moi, j'allais dire justement, dans le premier, déjà Hitchcock avec les oiseaux, enfin les fameux corbeaux.
Mmh. Ouais, complètement. Déjà, voilà encore une influence supplémentaire. Ouais.
Donc effectivement on retrouve Norman Bates, enfin voilà. Tu vois, c'est le Norman Bates de Psychose dans Code Veronica.
Non, puis l'unité de lieu très important aussi, on en a pas parlé dans Resident. Bon, voilà, le premier, un manoir, laboratoire, sous-sol, jardin, mais voilà, unité de lieu, c'est très important aussi dans le genre survival. Très peu de munitions, on se démerde,
chose qui a complètement explosé aujourd'hui dans la saga Resident, mais qu'on retrouve, et justement ce serait intéressant de revenir dans un Dead Space par exemple.
Voilà.
Unité de lieu, un vaisseau, qui est extraordinaire.
Mais on en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure, effectivement. Donc ouais, Julo, Resident Code Veronica.
Bah écoute,
ouais,
cette fameuse scène avec les Ashcroft, le mec qui se retrouve dans sa glace, tu te rends compte qu'il a une double personnalité. Ce moment est juste culte, quoi. Ouais. Complètement.
Il me semble
culte.
Aussi qu'il était plus dur, non? Moi je l'ai pas terminé, c'est un des rares Resident que j'ai pas fini.
Il est pas beaucoup plus dur, mais le problème c'est qu'il y a un passage
très
avec le tyran, voilà, où ouais, si t'es pas équipé, si t'as sauvegardé, c'est fini, faut recommencer. Moi j'ai eu la chance, le bonheur d'être équipé à ce moment-là, mais visiblement
encore
ça
une grande erreur de game design, peut-être il y en a dans tous les Resident, je sais pas, mais voilà.
Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Resident Evil, au fil des années, au fil des épisodes, s'est réinventé, a été un peu obligé de se réinventer aussi. Le 4 clairement lorgnait vers l'action, mais gardait ses grands moments d'horreur. Julo, tu le disais tout à l'heure, le passage dans les égouts, très flippant. Ouais. La première apparition du Gigante, et puis c'était la première fois où on avait autant d'ennemis face à soi aussi.
Cela dit, l'expérience globale de Resident 4, c'est quand même
exceptionnel.
Non, mais c'est génial, mais ça n'a plus rien à voir. Et moi, je préfère les sentiments que j'ai eus en jouant à Resident 1 qu'en jouant à Resident 4, même si c'est un monument du jeu d'action.
Ouais, ouais.
Voilà, Resident 4, c'est un monument du jeu qui, moi, personnellement, m'a fait flipper. Voilà.
Mais Resident 4 fait un peu moins peur, mais en termes d'immersion, il est
assez
exceptionnel.
C'est de l'action.
C'est d'accord. On ne reviendra pas longuement sur Resident Evil 5. Si vous voulez connaître notre avis, vous pouvez lire le test. Pif, je sais que toi, tu l'as apprécié un petit peu plus.
Bah, je suis en plein dedans, là. J'ai fini le 2-3 hier, le chapitre 2-3. Écoutez,
t'es à la moitié du jeu maintenant.
Ouais, voilà, honnêtement, je sais pas, je comprends pas trop cette espèce de vindicte.
Pas parce que t'es qu'à la moitié du jeu.
C'est
bien
possible,
le souci,
mais
tu verras dans 2 heures.
J'ai bien aimé le 4, là j'en ai pour mes thunes, quoi. Hein,
mais alors, justement, et par exemple, est-ce que tu trouves pas ça hallucinant que le jeu commence exactement pareil? Moi, c'est un truc.
On en parlait
direct,
tout à l'heure, on en parlait un petit peu avec Golem en arrivant. Ça
fait longtemps que
je. Excusez-moi,
avec Julien C.
Voilà, avec Julien C, pardon.
Golem.
j'ai une petite théorie là-dessus, mais bon, qui vaut sûrement pas grand-chose, mais je pense que le réalisateur, le producteur de l'épisode 5 fait peut-être un petit complexe d'infériorité par rapport à Mikami.
Mais c'est ce que disait Grolum l'autre jour, c'est que il y a... pardon.
Oui, voilà, vous avez tous les
jeux.
C'est un jeu qui n'a pas de directeur, en fait.
Oui, voilà. Qui n'a pas de directeur, qui n'a pas d'âme, quoi.
Qui a appliqué une recette, patchwork. Voilà, qui a appliqué la recette précédente.
Voilà. Le réalisateur, le producteur ont kiffé le 4, comme nous. Voilà. Peut-être, en tant que joueur, ils se sont dit, on va faire la même chose.
Ouais, voilà. Mais
c'est pas un chef, c'est un comique.
Mais mentalement moins bien, d'un côté.
Mikami, c'est des Mikami.
Moi, je pense pas qu'il a un concept d'infériorité, je pense qu'il est inférieur. Sur ce, le chapitre Resident Evil.
Parce qu'en même temps, c'est quand même un podcast sur l'horreur, c'est pas sur Resident, putain.
Voilà. Oui, mais là, franchement, c'est vraiment une pierre angulaire.
T'es obligé d'aborder Resident.
Puis surtout, il y a beaucoup d'épisodes. Vraiment beaucoup d'épisodes. On va partir sur un autre titre qui vient du Japon, parce que finalement, les Japonais, pendant très longtemps, ont vraiment été les maîtres de l'horreur en jeu vidéo. C'est quelques années après, 3 ans après, Konami essaye de lancer sa licence après Capcom. 99, l'apparition de Silent Hill. Et alors là, c'est un vrai phénomène aussi, même si le premier est loin d'être parfait, il imposait quand même déjà tout de suite un style, une direction artistique assez exceptionnelle. Piv, est-ce que tu t'en rappelles ?
Bah, alors bon, moi Silent Hill c'est un peu particulier parce que étonnamment le premier je l'ai pas eu. C'est un jeu que j'ai joué chez des amis, donc je suis allé jusqu'à l'école, le téléphone qui s'est mis à sonner, ça j'ai vécu ces instants là dans la fameuse salle de classe. Il y a un moment très flippant,
la sirène,
voilà. Bah ça je m'en souvenais pas, j'étais persuadé que dans le film de Gans c'était un apport du film de Gans, et j'en voulais à Gans d'ailleurs d'avoir inventé ça, alors que j'ai su plus tard que ça venait
dans Silent Hill 1. C'est, je crois, le moment. Ça veut dire que lorsqu'on a, parce que c'est l'apparition aussi de ces mondes alternatifs, alors pas fait comme dans le film, en tout cas dans Silent Hill 1, mais donc oui, c'est ces mondes qui soudainement partent en vrille avec oxydé, la rouille, le sang qui suinte sur les murs. Et puis une fois qu'on finissait le premier chapitre qui était un peu l'école et que tout revenait normal, bon, même s'il y avait toujours personne dans la ville et la brume, hein, et puis on entendait cette alarme et puis la cloche qui sonnait, et on allait voir pour la première fois cette vieille folle dans son église.
Je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi tous les premiers mercredis du mois quand j'entends la sirène, je pense à Silent Hill. Vraiment, maintenant c'est vrai.
Ah bah maintenant, en tout cas, on y pensera.
D'ailleurs, c'est pas un hommage quelque part, le début de Resident 4 avec cette fameuse cloche qui sonne, etc. Peut-être.
Moi je l'ai vu un peu comme ça, mais bon, c'est succinct. Un petit clin d'œil,
mais
on va dire.
Dit, voilà, ouais, c'est une alerte, une cloche. Voilà.
C'est sûr. Mais ce qui était fort dans Silent Hill dès le premier et qui s'est prolongé, on va parler surtout essentiellement du 2, qui est, je crois, pour ceux qui connaissent vraiment la série Silent Hill, le titre incontournable par sa force, sa maîtrise technique aussi, mais surtout son ambiance, les références. Il y a vraiment des films clés et surtout un autre style de peur que Resident Evil. Là, on n'est pas du tout dans le sursaut, même s'il y en a certains, hein, mais vraiment dans cette terreur latente, constante, qui fait qu'il faut ouvrir la lumière et aller prendre un verre d'eau toutes les 2 heures, hein, parce que c'est pas possible.
Silent Hill, en fait, à contrario par rapport à Resident Evil, donc Resident Evil, tout à l'heure je parlais de ça comme du pur cinéma hollywoodien très efficace. Silent Hill, c'est complètement l'opposé. On pourrait qualifier quasiment cette série, donc, et principalement le 1 et le 2, de cauchemar réveillé. C'est vraiment des jeux, je pense. Alors, je sais pas ce qui s'est passé chez Konami, chez les développeurs. Ils ont eu cette espèce de génie d'accoucher d'œuvres. Oui, on peut vraiment parler de cauchemar parce que. C'est assez compliqué, hein, Silent Hill. Ça se passe beaucoup dans la tête. Chacun a sa propre approche de l'univers. Mais il y a quand même des choses. Bon, j'ai pris des petites notes, excusez-moi.
Nous t'autorisons à les regarder.
Voilà. Mais par rapport à Silent Hill, en fait, je trouve que le film qui s'en rapproche le plus à l'heure actuelle, en termes d'ambiance et en termes de ce qu'on peut ressentir en jouant en jeu, c'est Massacre à la tronçonneuse. Donc je parle de l'original, hein, celui de 74.
Ce qui peut paraître très surprenant comme ça, mais tu vas nous expliquer.
Et en fait, bah, il se trouve que Massacre à la tronçonneuse, sa plus grande force, c'est que c'est un film démonstratif. L'horreur, elle existe en plein jour. Massacre à la tronçonneuse, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, qui disent oui, c'est très gore, c'est le film le plus gore de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas vrai du tout. On ne voit quasiment rien en termes de chair, etc. Enfin, ce n'est pas du tout un film sanglant. Par contre, c'est un film qui fait très peur, qui met très mal à l'aise, parce que Massacre à la tronçonneuse, c'est comme un cauchemar réveillé. Et il y a une caractéristique du film, c'est sa bande originale, sa bande son, qui est faite de fréquences. Et on retrouve ça dans Silent Hill.
Ah oui, clairement.
Et ça, c'est des caractéristiques, on peut dire, de cauchemars réveillés, des cauchemars programmés, des cauchemars réveillés. Alors bon, là, je pense qu'un psychologue aurait carrément des choses intéressantes à dire à propos de ces jeux, à propos de Silent Hill. Voilà, quand on joue à Silent Hill, on pourrait très bien dormir et être en super bad trip. C'est des jeux qui sont marquants à ce titre-là.
Ah bah c'est, oui, c'est des titres suffocants parce que justement, autant dans un Resident Evil, il y a une bande-son qui est là pour faire peur, des nappes un peu sombres. Bon, enfin bon, c'est de la musique, hein, il y a des mélodies. Là, il y a aucune mélodie à part quelques chansons-titres dans les Silent Hill, mais c'est à chaque fois du son très déstructuré, c'est industriel, c'est des cris, c'est des râles, c'est... Oh, c'est... On n'en peut plus, quoi. On est constamment traumatisé visuellement et au niveau du son.
Tout à fait. Et puis d'ailleurs, Silent Hill, bon, si on reprend le 2, donc on a une lampe torche. Mm-hmm. Le jeu se passe beaucoup dans la pénombre et voilà, c'est vraiment une caractéristique encore du cauchemar, c'est-à-dire qu'on va éclairer certains endroits en se disant bon, je m'attends à qu'il y ait un monstre, la plupart du temps il n'y en a pas, mais notre imagination elle carbure à 3000%, quoi. Alors que Resident, on ouvre une porte, bouh, ça fait peur, voilà, puis terminé, après ça redevient de l'action. Non, Silent Hill, c'est constant.
Et puis il y a aussi quelque chose qui a apporté Silent Hill, c'est que les Resident Evil et quasiment tous les jeux d'horreur, on est toujours un super-héros, quoi, un SWAT, quelqu'un d'entraîné. Silent Hill, constamment, hormis le dernier épisode, on joue toujours un Pékin lambda qui ne sait rien manier comme arme. Alors ça explique un peu la jouabilité aussi un peu molle.
Ouais, a posteriori.
Mais, voilà, mais à la fois, c'est vrai que ça contribuait à rendre l'expérience très déstabilisante.
En tout cas, c'est logique. Effectivement, Yamaoka le revendique lui-même. Hein, comme je lui avais posé la question, toujours dans le cadre du hors-série de MAD, à propos de cette fameuse jouabilité pourrie, faut le dire. et non, il avait dit, écoutez, c'est un mec lambda, comme monsieur tout le monde. Dans la vie, on ne se déplace pas aussi aisément, aussi fluide que dans les jeux vidéo. Mmh. Et c'est tout à fait vrai. Et ça participe en tout cas beaucoup au stress généré par le jeu.
Moi,
d'ailleurs, on passe, excuse-moi, ouais, Julien, d'ailleurs, on passe beaucoup plus de temps à éviter les monstres qu'à les combattre.
Bien sûr. Ouais. Parce qu'en plus, on a très peu de balles, tout de cartouches, fait. Ce qui est l'un des fondamentaux d'ailleurs du survival horror, hein, la dimension survie. De,
ouais, ouais.
De, voilà, Julo, tu le dis à juste titre, premier Resident, on a un armement tellement plus restreint que ce qu'on a aujourd'hui dans des titres comme Resident Evil 5, où c'est vraiment du galerie de shooting. Ce qui est intéressant aussi dans les Silent Hill, c'est les références. Il y a du Francis Bacon dans les œuvres, dans ces tableaux très.
Bon, voilà, ça c'est clairement revendiqué.
Il y a des films aussi.
Voilà, hein. L'échelle de Jacob, donc ça aussi c'est pareil.
Alors pourquoi l'échelle de Jacob justement, ça m'a.
L'échelle de Jacob, c'est au niveau des hallucinations, des monstres difformes, etc. Ça c'est clairement repris de l'échelle de Jacob au niveau du grain, au niveau de l'ambiance. Et puis l'échelle de Jacob, bon alors c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais le film repose quand même sur un twist,
J'ai envie de dire une chose, voilà, on va en parler pendant une minute trente. Si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez pas vous spoiler, bah vous avancez un petit peu. Mais pour ceux qui voudraient vraiment savoir, explique-nous un petit peu.
Non, bah en fait, donc dans l'échelle de Jacob, le héros entre guillemets principal revient du Vietnam. Donc il a ces espèces de fêlures, etc., psychologie, et il voit des monstres partout. Alors on sait pas, en fait, on sait jamais vraiment dans le film si ces monstres existent ou pas, ou si c'est dans sa ou si c'est dans sa tête. Effectivement, ça a été repris beaucoup dans Silent Hill 2, entre autres, où on joue sur la confusion.
Et dans Homecoming. Voilà.
Exact. Oui, entre autres d'ailleurs dans le dernier épisode. Aussi, ouais, tout à fait. Voilà.
Angel.
Moi, je pensais aussi à L'Antre de la Folie, mais je sais plus lequel est sorti avant. C'est-à-dire, si Silent Hill est sorti avant
oui,
L'Antre de la Folie ou pas.
Ouais, de Carpenter,
Mais il y a beaucoup.
L'Antre de la Folie, je crois que ça date de 95, il me semble.
Ouais, donc je sais pas comment le
situer. Ah oui, c'est 99, Silent Hill,
ouais,
le
99,
premier. Oui, donc ouais. L'Antre de la Folie, c'est les années 90.
Mais ouais, L'Antre de la Folie, beaucoup, justement, dans le côté, tu sais pas vraiment si c'est vrai ou si c'est. Enfin, si c'est purement imaginatoire ou si c'est du réel et le mec qui pète un boulon au bout d'un moment.
Oui, puis dans Silent Hill, les rues sont des noms d'écrivains, King, Stephen King, Diner Koontz, Dan Simon, je crois. Enfin bon, il y a vraiment des...
C'est très érudit, hein, Silent Hill. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'histoires de cultes, de satanisme latent. On lit comme ça des coupures de journaux. Enfin, il y a vraiment une immersion par l'invisible, parce qu'on lit ou on se met dans l'ambiance qui est très forte, plus forte que dans un Resident Evil.
Oui, c'est vrai. Et puis finalement, dans Silent Hill 2, on a une conclusion à l'histoire. Mais je crois que ce qui dérange encore après avoir terminé le jeu, ce qui continue à diffuser un malaise, c'est qu'on a rien n'est justifié. L'histoire se conclut, voilà, c'est terminé.
Puis il y a plusieurs conclusions aussi.
Oui, voilà, en termes de fins différentes, mais vraiment, l'horreur n'est jamais justifiée, n'est jamais explicite. Voilà, c'est tout se passe, on est constamment entre deux eaux, c'est vraiment efficace.
Heureusement, finalement, qu'il n'explique pas, justement.
Voilà, alors c'est que Resident, on sait tout.
Ah oui, on sait tout.
Voilà. Hein, et
mais en fait,
on
a un qui est bien écrit et pas l'autre, finalement.
Et, tu vois, et pour faire une suite, il prolonge le scénario, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il prend l'eau, c'est parce que, enfin, le truc, c'est bon, voilà, on a expliqué, mais comme il faut aller plus loin, on va aller encore plus loin, quitte à aller dans l'incohérence et les trucs un peu, finalement, à la mort.
Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de mystère, les suites, c'est pour faire du fric. Donc à partir de là, c'est vrai que la cohérence artistique,
vidéo,
c'est compliqué.
En jeu vidéo, un peu plus qu'au cinéma, ça peut apporter plus d'immersion, plus de un
ouais,
gameplay
enfin,
plus affûté. 5
volets, 6 volets, oui, la corde elle commence à être usée. Quoi.
C'est compliqué. Juste pour conclure sur les Silent Hill, en anecdote, lorsque j'avais eu la chance de rencontrer le créateur du jeu, je leur avais demandé justement, est-ce que vous faites des cauchemars? Et en fait, c'était...
Est-ce que vous êtes quelqu'un de normal ou est-ce voilà, que vous rentrez dans une chambre capitonnée chez vous le soir?
C'est un grand reportage sur un week-end et là, il me disait non, je fais pas de cauchemars, etc. Et le dernier jour, il est venu me voir à un moment, il m'a fait, en fait, si, j'ai un cauchemar récurrent. Et je lui ai fait, ah bah ça m'intéresse, c'est quoi? Et franchement, vous allez flipper. Vous allez comprendre l'esprit malin de ce mec. Malade, plutôt. Donc en fait, son cauchemar récurrent, c'est il est dans un bus anglais, rouge, qui sent le bacon très très fort quand il rentre dedans. Et puis il se met tout au fond. Et puis là, il voit sa maison partir très loin avec sa maman qui lui fait coucou à la fenêtre. Et tout d'un coup, il y a une espèce de gros truc mixeur qui mixe la maison et qui projette plein de fragments de bois et de chair sur le bus. Et à chaque fois, il se réveille et il pleure. Voilà. C'est donc de cet esprit qu'est né les premiers Resident Evil. Et là, vous vous dites, oh bah normal. Non, c'est pas Michael. Les premiers Silent Hill, pardon, excusez-moi. Voilà, ces gens sont un peu dérangés. À
les,
la fois...
les psychologues en parleraient presque mieux que nous, finalement.
Ah, c'est... Oui, sur les Silent Hill, voilà. Il y a de belles études à faire.
Mais moi, en plus, moi, j'adore les distorsions, le traitement du son des Silent Hill. On a déjà parlé, ouais. Mais vraiment, j'insiste, moi, le traitement du son des Silent Hill, les distorsions, je trouve ça surpuissant. Mais ouais, vraiment.
Et de toute façon, toutes ces expériences-là, c'est des trucs qui sont bossés jusque dans les moindres détails. Ouais. Et c'est pas un hasard si ça fonctionne et si ça marque autant. Hein.
Et chaque Silent Hill a vraiment aussi un peu son style, sa personnalité. Et à chaque fois, il y a toujours au moins une séquence clé unique, visuellement bouleversante. Je pense aux 3, par exemple, avec ce miroir. Et on voit comme ça, on arrive dans une salle où il n'y a strictement rien. On entend une sorte de gargarisme. Il y a juste un lavabo avec un grand miroir. On ne comprend pas ce qui se passe au début. Puis tout d'un coup, en se regardant dans le miroir, donc son personnage, on voit qu'en fait, il y a du sang qui sort du lavabo, qui commence à monter sur son perso. Sauf que le perso dans la pièce n'a rien. C'est uniquement dans le reflet.
C'est le reflet, ouais.
Et puis ça commence l'image à se tordre, le son qui monte, etc. Et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Genre, je reste, je regarde jusqu'au bout ce qui se passe, je ne sors pas. Et moi, j'étais resté. Et puis à un moment, j'ai flippé, j'ai voulu sortir. C'était trop tard, game over. Il faut sortir, mais on ne sait plus quoi faire, on ne comprend pas. Et puis, il y a vraiment à chaque fois que ça s'agit des trucs très forts.
Ça me fait penser à une scène de Shenmue.
Oh merde.
Pardon, excusez-moi.
Non, mais vous avez aimé le 5.
Non, parce qu'en plus, tu déconnes pas.
Ah, tu déconnes pas.
Non, t'as une scène dans Shenmue en fait où tu vas voir un mec qui doit t'apprendre un truc.
Il y a une scène où il y a un miroir.
Et c'est un. Comment on appelle ça? Un mec qui te rase.
Un barbier.
Un barbier, voilà. Et il te dit surtout ne bouge pas. Et là, il te met le couteau sous la gorge. Et là, t'as le bouton A qui apparaît. Donc soit t'appuies et t'as perdu. Ouais, pardon, excusez-moi.
C'est un anti-quick time event.
Voilà, c'est un anti-quick time event. Il ne faut pas appuyer sur le bouton A quand le bouton A fait. Plip, 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 plip. Voilà. Excusez-moi.
Silent Hill, une œuvre. Shenmue, pauvre quick time. Putain, il a tout cassé. Bon, en tout cas, Silent Hill, vraiment, pour vraiment les amateurs d'horreur psychologique, c'est vraiment
c'est le meilleur hein, aujourd'hui. Il n'y a pas eu mieux, hein, vraiment.
On est assez d'accord en tout cas sur les premiers épisodes.
Je suis comme Pif, je suis pas un super pro des survival, je suis même pas super fan à l'origine, mais moi en tout cas j'adore le traitement de Silent Hill et tout ce qu'il y a derrière. Mais vraiment, je trouve que c'est le jeu le plus soigné dans sa globalité.
Tout à fait. Il n'est pas le seul à avoir tenté des approches un peu plus psychologiques. En 2002, il y a un jeu un peu ovni qui est sorti, Julo. Il s'agit d'Eternal Darkness. C'est pas fondamentalement un jeu d'horreur et pourtant.
Un jeu de Silicon Knights sur N64.
De Silicon Knights, voilà.
Ouais, Silicon Knights. Alors, c'était un jeu vachement intéressant parce que tu parlais des différents. Enfin, on essayait au début de l'émission de classifier les types de peurs. Et celui-là, il avait vraiment un genre très particulier. Qui était un peu basé sur l'hallucination sonore et visuelle et l'impression de devenir fou en fait. Et ça, c'était assez fascinant dans ce jeu. En gros,
il y avait des éléments de gameplay particuliers.
Ouais, c'était mélangé dans le gameplay, vraiment dans le jeu, etc. T'avais une jauge de santé mentale en fait. Mm-hmm. Et dès que tu te faisais voir par un monstre, dès qu'un monstre te voyait avant que toi tu le vois ou ce genre de choses, cette jauge baissait. Et plus elle baissait, plus tu étais sujet en fait à des hallucinations. Et donc il se passait des trucs assez hallucinants, par exemple, c'était parce que c'était vraiment mélangé dans le gameplay. Tu rentrais dans une pièce, tu continues à avancer tranquillement, et puis d'un seul coup la tête de ton personnage explose. Et puis tu te rends compte que tu peux continuer à avancer. Et là c'est ton bras gauche qui tombe, puis ton bras droit.
Ça c'est fort ça.
Puis tes jambes qui s'éclatent, et toi qui finis par ramper par terre, et là d'un seul coup, brrr, tu ça reviens bien. Et t'es devant la porte, en fait tu l'as pas encore franchie.
Ça c'est fort.
Et voilà, et tu te dis juste je deviens fou.
C'est surtout le premier jeu de, dans tous ceux qu'on a cités qui incorpore la santé mentale comme mécanique de jeu, quoi. Vraiment,
mmh. Oui, vraiment. C'est ça. C'est en fonction de ce
comme
que tu fais.
De gameplay,
ta santé mentale baisse. Alors tu peux la faire augmenter avec des pouvoirs magiques, machin, etc. C'était d'ailleurs ça qui avait un peu gâché l'expérience, mais bon. Pour citer un autre exemple, tu pouvais rentrer à un moment dans une pièce et te dire tiens, les arbitres cette pièce, elle n'était pas comme ça tout à l'heure. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu marches sur le plafond. Mais tout est inversé, tu vois, t'avais l'impression de marcher sur le sol normalement. Mais au moment où tu t'en aperçois, ah, boum, tu te retrouves devant la porte. T'avais plein de trucs comme ça. Et ce jeu était vraiment extraordinaire pour ça. Et pour une autre chose, et c'est quelque chose qui manque beaucoup aux jeux vidéo en général, alors peut-être aux jeux flippants en particulier, c'est la narration. Et il y avait un truc génial dans ce jeu, c'est que c'était un puzzle gigantesque.
Ouais.
Et que, en fait, pendant tout le jeu, tu jouais des personnages différents à des périodes différentes de l'histoire. Alors tu pouvais jouer
un centurion,
tu pouvais jouer ensuite un mec pendant la
révolution. Il y
avait
plus d'une dizaine de personnages différents, je crois.
Il y en avait 11 et toi tu te rendais compte à la fin que tu étais le 12e en fait. Mais
c'est classe. Et
au fur et à mesure que tu jouais, tu comprenais juste rien du tout à ce qui se passait. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là, etc. Et à la fin du jeu, tout ça s'embriquait et tu comprenais tout. Et là, il y avait un aspect un peu cinématographique, justement, parce que tu voilà, t'avais le truc de la fin, tout se mettait en...
C'est un montage gigantesque.
Ouais. Et c'était génial, vraiment génial. Mm. Donc, Eternal Darkness, c'était un jeu très en retard techniquement,
ouais,
parce que c'était
un
jeu qui était prévu sur N64 à la base. Mais c'était des mecs talentueux, c'était Silicon Knights, donc les mecs qui ont fait le premier Blood Omen.
Qui était très très bon, Legacy of Kain, voilà. Blood Omen, et qui ont fait aussi cette grosse boost de Two Human.
Ouais. Et oui, bah voilà, comme quoi tu peux t'arriver. Et d'ailleurs, ouais, ils ont été crescendo.
J'aurais pas dit cette grosse boost, j'aurais dit ce tout pourri. Bon, pardon.
Mais en tout cas, vraiment, Eternal Darkness, pour ce trip très particulier de la folie. La folie qui gagne le joueur, cette mise en abîme un peu qu'on aime aussi hein, quand on joue au jeu et qu'on a envie de se mélanger avec ce qui se passe, etc. Et bah, tu avais l'impression de devenir fou toi-même.
Je
voudrais juste apporter une précision, le concept de la santé mentale, de la jauge, etc. Je sais pas s'il y a des rôlistes ici, mais ça vient de l'appel de Cthulhu en fait. Hein. Ouais. Ça vient du jeu de rôle.
Effectivement.
Papier d'appel de Cthulhu où tu dois gérer la santé mentale de ton personnage. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. C'est vraiment c'est Lovecraft. Voilà.
C'était très Lovecraftien d'ailleurs dans l'ambiance, etc.
Complètement. Julo, tu vas garder le micro parce que tu vas nous parler d'une autre série qui elle aussi fait quand même sacrément flipper et qui d'ailleurs est très originale parce que c'est la seule dans laquelle on a strictement aucune arme. Il s'agit de Project Zero, Fatal Frame.
Voilà, c'est précisément pour ça. Donc Project Zero, Fatal Frame aux États-Unis, Zero au Japon. Alors c'est un jeu vachement intéressant parce que déjà, il surfait donc sur la mode du cinéma d'horreur japonais, à la Ring, etc. Donc c'était assez unique dans l'ambiance.
C'était absolument génial même.
Ouais.
Très immersif.
Voilà. Et en plus de ça, vraiment, il arrivait à te faire flipper autant que ce genre de film pour les mêmes raisons. Hein. C'était bon. Alors, c'est un peu le genre de peur par l'apparition visuelle, le bug sonore, le machin, etc. Et comme tu disais, effectivement, tu incarnes un personnage qui est une jeune fille. T'en parlais d'ailleurs aussi. On en parlait tous pour Silent Hill. Cette jouabilité un peu
pâteau. Un personnage faible.
Voilà, personnage faible, ouais, profondément faible. Et tu n'as pas une seule arme dans le jeu. Au moment où Resident 2 te mettait le fusil à pompe, etc. Dans Project Zero, ta seule arme, c'est un appareil photo qui te sert à capturer en fait les esprits fantômes qui sont dans cette baraque, etc.
Mais un appareil photo mystique,
magique.
Voilà.
Magnifique et magique.
Parce qu'en plus, on peut. Ouais, c'est
incroyable et magique.
Tu peux renvoyer les esprits, tu peux les capter sur la pellicule. Enfin, il y avait
voilà,
vraiment.
Et puis tu gagnes des pouvoirs au fur et à mesure, etc. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, ton personnage est. Et alors là, c'est encore pire que dans Silent Hill, vraiment très lent. Très lent à faire tourner, à faire demi-tour.
Mais vraiment, là, vraiment voulu. Hein.
Et c'est vraiment voulu. Mmh. Et enfin, moi, en tout cas, j'en suis persuadé.
Ah ouais,
c'est vraiment
voulu. Ça apportait vraiment quelque chose.
Voilà. Et puis après, dans les mécaniques, c'était vraiment, alors là, encore une fois, mais inspiré à 2000% du cinéma japonais. Mais moi, je n'ai jamais de ma vie autant flippé devant un jeu que devant Project Zero.
Ah oui, avec les petits cris de filles qu'on entend au fond, la porte qui s'ouvre, puis quelqu'un qui passe devant.
L'apparition, la note de guitare japonaise. Là,
ouais,
et puis... Mais je sais plus comment on appelle cet instrument.
C'est une sitar.
En tout cas, enfin voilà quoi, c'était vraiment. Pour te dire la vérité, un soir j'y ai joué et c'est la seule fois de ma vie où j'ai éteint la console. Exactement, c'est ça. J'étais en train de jouer et vraiment la tension était montée, un peu comme dans un Silent Hill, un malaise constant, etc. Et au bout d'un moment, c'était trop quoi. J'ai eu un dernier flash, etc. Là, il y a une espèce de petite gamine qui est apparue avec ses cheveux longs, la ring et tout, juste devant moi sans que je m'en rende compte. Je me suis précipité sur la PS2, j'ai éteint la console, tu vois. Et en plus, pour éteindre la PS2, il faut rester appuyé sur le bouton. Il faut attendre que ça passe, tu vois. Et j'étais là, mais j'étais en train de trembler, j'ai éteint la console. Et quand elle s'est éteinte, je me suis dit, putain, quel con, ça fait une heure que j'ai pas sauvegardé. Et j'ai tout recommencé.
Et Julo devait bien avoir 26 ans à ce moment-là.
Et ouais, et figure-toi que je jouais même avec ma copine à côté de moi, qui est aujourd'hui ma femme, et ça n'a rien changé. Je flippais comme un malade, vraiment.
Non, c'est très flippant, et c'est plutôt bien écrit en plus, hein.
Ouais, non, mais vraiment, ce jeu est extraordinaire. Il a été un peu sous-estimé, pas trop joué, etc. Mais si vous avez l'occasion, Project Zero, c'est...
Moi, ce que je trouve très intéressant, et finalement, vraiment, je suis presque étonné qu'il n'y ait pas joué, parce que c'est l'un des jeux qui mixe peut-être le mieux les deux vues. On est constamment à la troisième personne quand on suit l'héroïne, le héros, etc. Mais par contre, dès qu'on est avec la caméra, l'appareil photo, on est en vue subjective. Du coup, les ennemis apparaissent très proches de soi. Et surtout, certains pouvoirs, on est obligé d'attendre au dernier moment qu'ils soient le plus près de soi. Et on voit leur visage en train de se distordre devant soi et d'avancer.
Il faut les suivre,
en courant,
parce qu'ils bougent aussi.
Il faut les suivre. Et du coup, on les suit en avant.
Et tu peux bouger pendant que tu photographies ?
Oui, je me souviens bien.
Du coup, tu peux un peu comme ça, puis en plus, tu vois des choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Enfin, c'est du coup assez intéressant parce que ça mixe un peu les deux et tu dois jongler, c'est pas évident, mais quand tu es vraiment dans le trip, c'est. Et puis c'était plutôt bien fait techniquement aussi. Angel.
Moi, ça n'a quasiment rien à voir, mais je garde un souvenir très ému de Project Zero parce qu'il se trouve que j'étais parti en voyage de presse pour ce jeu et que c'était le jour de la finale. Real Madrid, Leverkusen.
Oh putain, j'attendais.
Non, mais je vous jure. Et donc, j'étais perdu au fin fond de l'Écosse dans un château qui était censé être hanté parce que machin, pour la déconne. Et évidemment, aucun journaliste espagnol n'était venu parce qu'il y avait match. J'avais demandé à l'attaché de presse, elle m'a dit ouais, mais non, l'Espagne, ils ne peuvent pas. Je crois que c'est un jour férié, je sais pas, machin. Donc, moi, j'étais super dégoûté. Je m'étais retrouvé sur le toit donc, de ce fameux château parce qu'évidemment, il n'y avait pas de téloche. En fait, le premier truc que j'ai regardé, c'est voir si je voyais une antenne de télé. Il n'y en avait pas. Et je m'étais retrouvé sur le toit du château avec la main tendue comme ça pour essayer de choper du réseau sur mon téléphone portable et j'appelais Julo pour savoir, pour connaître le score. Et c'est lui qui m'a dit, mais attends, mais t'as pas vu, il y a Zinedine qui a marqué une reprise.
Ah, c'était ce jour-là.
Voilà, mais oui, mais évidemment.
Quel
évidemment.
But.
Et donc, c'est pour ça que j'en ai un souvenir, j'en garde un souvenir très ému de moi en train de tendre la main comme un con sur un château hanté perdu en Écosse.
On est en train de parler de football dans un podcast sur la peur et le jeu vidéo sans évoquer la victoire de l'OM 3-1 contre le PSG. C'est quand même dommage, quoi.
J'avais quand même vachement peur qu'il perdre cette finale. Attends, ça colle finalement avec le thème. Hein.
Allez,
c'est très bas ce que tu viens de faire parce que ça fait deux semaines que je te laisse tranquille alors qu'on est devant.
Oui, mais au MPSG, tu l'avais ramené.
Ça, les mecs, mais les
PSG OM, on la ramène. OM champion du championnat français. Alors, on va revenir, on va resituer un petit peu les choses. Donc, Project Zero, une belle série. Il y a eu pas mal d'autres essais depuis, hein, pas mal de titres pléthores, j'aurais même envie de dire. Il y en a un, justement, Raon, qui mise sur la vue subjective, qui le fait d'ailleurs plutôt bien. C'est la série des Condemned. Qui finalement parfois a été mal jugé.
Encore
ou
un
jugé
jeu
trop vite
que
et
Traz aime beaucoup,
très flippant,
dont tu pourrais nous parler. J'ai pas fait le premier, moi j'ai fait surtout le deuxième. Alors ça reste, en fait c'est un petit peu à mi-chemin finalement entre la peur hollywoodienne avec des sursauts, parce qu'il y a quand même des mecs qui te foncent dessus en hurlant, donc ça c'est typique du sursaut, et une ambiance générale
très malsaine,
très 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 malsaine, voilà, avec tout est toujours crade, tout est toujours cassé, tout est toujours poussiéreux,
le perso ultra torturé,
voilà, il a lui-même des visions, c'est un alcoolique,
en fait il est presque malsain, ce jeu, c'est ça aussi, c'est une dimension
supplémentaire. Oui, et il mélange très habilement les deux, et la vue subjective pour le coup alliée aussi à tout ce qui est ficelle type obscurité où tu vois toujours pas très très bien, il fait toujours très sombre, ça se bat énormément au contact, et ça c'est très important.
Je le trouve aussi vulgaire. Vive. Un petit peu, moi. Je le trouve vulgaire. En fait, il y a un truc que j'aime pas dans le jeu, donc je l'aime et j'y ai pas beaucoup joué. Mais j'aime pas taper des clochards.
Ils sont un peu vénères à la fois.
Ouais,
non, mais peut-être bien. Mais enfin, je sais pas. C'est un truc qui me gêne dans. Bon, alors, c'est vraiment une petite anecdote, mais dans The Warrior, il y avait, il me semble, dans le tutoriel, le Warrior, l'adaptation en jeu du film.
Ou King Ping.
Ouais, The Warriors, vraiment, les guerriers de la nuit. Dans le tutoriel, on tapait les SDF pour s'entraîner, donc je trouvais ça complètement con. Et dans Condemned 2, il me semble qu'au début, le tutoriel, on tape encore des clochards.
C'est pas vraiment un tutoriel et c'est pas vraiment seulement des clochards, en fait.
D'accord. Bon, alors après, voilà, effectivement, si j'étais allé plus loin. Ouais. Mais bon, moi, passé ça, j'ai fait OK, super. Bonjour l'ambition. Donc je l'ai mis de côté. Par contre, je peux pas nier qu'en termes d'ambiance, etc. Monolith, c'est les développeurs, je crois, ils sont très bons.
Ouais. Ils sont vraiment forts et en termes
de game design, donc c'était cet aspect baston au corps à corps était très très important aussi parce que il y a des flingues, hein, mais tu les utilises finalement assez peu et il y a peu de munitions, etc. Et au départ, t'as que tes points, quoi, si je dis pas de conneries. Mmh. Donc t'es obligé de laisser l'objet de ta peur s'approcher aussi, peut-être un petit peu de manière similaire à ce que tu décrivais pour Project Zero avec l'appareil photo. Et
du coup, c'est très stressant.
Voilà, t'es obligé d'affronter finalement l'objet de ta peur au lieu de fuir, comme dans d'autres jeux où tu passes ton temps plus à fuir qu'à affronter les ennemis.
Et dans le premier, c'était assez intéressant en plus parce qu'il y avait ce côté on était flic, torturé, on était pourchassé.
Dans le deuxième, et t'as ces scènes justement d'investigation, ouais, où tu tombes sur des trucs parce que t'as une histoire de serial killer aussi derrière, voilà, un personnage, ouais, serial killer.
Bah oui, c'est
killer.
Ce que je voulais dire, c'est très proche de Seven finalement, un peu dans l'ambiance.
Ouais, ça emprunte effectivement beaucoup à ces trucs-là avec des scènes de crime que tu dois explorer où tu vois des traces de sang à la lumière.
Dans le 2, c'est surtout du CSI quand même. Hein. Il y a énormément de CSI avec les photos, ouais, etc. Enfin, les déductions, avec les sortes de QCM, genre qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Choisir la bonne réponse. Ça fait quand même très CSI. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, ces gars avaient vachement poussé la communication là-dessus. Quoi.
Enfin, c'était un élément travaillé avec les experts de l'ensemble. Et c'était des scènes. Alors, ça devenait un peu paradoxal parce que tu t'arrives à un moment où tu vas voir un cadavre éventré sur une table avec du sang partout sur les murs et des trucs comme ça. Et c'est un moment de respiration dans le jeu. C'est un moment où tu te sens à l'aise parce que tu sais que tu vas être dans une scène d'enquête où tu auras le temps de regarder un peu ce qui se passe et de faire des déductions et d'avoir cette fameuse scène-là, alors que partout ailleurs, tu n'es jamais à l'abri d'un mec qui tombe sur le paletot avec une baramine. Quoi.
Ouais. Donc ça, c'est effectivement un titre le genre de titre dans lequel on respire très peu. On est toujours
étouffant,
en tension, que ce soit visuel ou au niveau du gameplay, avec effectivement des ennemis qui vous arrivent directement avec la rage.
Et
au corps.
C'est aussi un des rares où c'est de la vue subjective et que c'est très bien exploité de ce point de vue-là. Mm-hmm.
Et justement, j'aimerais qu'on passe le micro à CAF parce que dans cette mouvance un petit peu des jeux qui vous lâchent jamais, avec des ennemis qui arrivent très vite, qui vous courent dessus et ça fait flipper, Left 4 Dead, il y a quelques mois, a vraiment aussi mis la barre haut, même si c'est très arcade, hein, ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais franchement, par le nombre, tu parlais de vagues d'ennemis tout à l'heure, c'est colossal.
Ça fait peur quand tu découvres le jeu, en fait, tu as des petites séquences où tu vas un peu triper. Surtout en coopératif, enfin même en solo quand tu joues avec l'IA, mais le but est vraiment pas de faire peur à terme, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans le jeu multiplayer, donc c'est pas un jeu d'ambiance du tout, mais ça fonctionne dans la mesure où c'est vraiment le zombie qui court super vite, qui vient avec ses 2 milliards de potes, les zombies qui ont des super pouvoirs, parce que t'as donc des zombies qui sont désinfectés un peu de haut de gamme, t'as le zombie de base, hein, évidemment, qui meurt direct, et puis t'as les vrais...
Zombie prolo.
t'as le zombie prolo, et t'as le zombie qui t'attrape avec des langues de 12 km, qui t'étouffe, qui te tire, t'as celui qui te vomit dessus et qui appelle tous les autres zombies, et donc ça rajoute vraiment en termes de gameplay quelque chose d'intéressant. Mais sa grande force, et parce que moi j'ai un vrai problème avec tous les survival horror dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que j'ai jamais pu encadrer la plupart d'entre eux parce que je ne supporte pas ces gameplays lents,
cette prise en main
de camions de 15 tonnes dont je parlais tout à l'heure. Et Left 4 Dead fait partie, avec les Fear, les choses comme ça, de quelque chose, et notre Dead Space dont on parlera tout à l'heure, de jeux avec des prises en main très léchées, très réactives, très bien foutues, et qui peuvent vraiment, Left 4 Dead, même si c'est vraiment pas, je le classe presque pas dans les jeux qui font vraiment peur à terme, mais c'est vraiment quelque chose qui me prouve qu'on peut faire du survival, on peut faire un gameplay efficace en faisant peur. On n'est pas obligé de faire des héros avec 2 balles et go, quoi.
Pif, tu veux réagir?
Ouais, Left 4 Dead, en fait, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment dans l'air du temps.
Ouais. C'est ce qu'aurait pu être Resident Evil 5, j'aurais envie de dire.
Mais non, mais en fait, Left 4 Dead, pour moi, c'est plus... bon, les zombies qui courent, en fait, c'est simple. C'est 28 semaines, 28 jours.
Ouais.
C'est l'armée des morts. Alors bon, sur MAD, dans les formes de MAD, il y a des milliards de discussions à ce sujet-là. Est-ce que vous préférez les zombies qui marchent lentement à la Romero? Donc c'est deux types de peurs différentes, parce que voilà, le zombie qui te court après, il te fait flipper, tu te traces. Grave. Le zombie qui a deux tensions, c'est une peur lente, une peur progressive, mais on a l'impression qu'on peut pas s'en échapper parce qu'ils sont nombreux, parce que pour plein de raisons. Donc c'est deux approches, c'est deux écoles différentes, et Left 4 Dead, c'est clairement dans l'air du temps, c'est la société, ça va vite. On perd plus de temps.
Et c'était l'une des forces de Resident Evil Rebirth qui justement réussissait à marier ces zombies lents Et c'est les Crimson Head voilà, qui se réveillaient des zombies qu'on avait déjà tués parce que les corps restaient dans ce putain de Resident Evil.
Et voilà, et c'est sorti.
Ils te sautaient dessus, machin, voilà, soudainement en courant, ouais, alors que tu n'avais jamais vu ça dans Resident Evil. Et c'était magique. Caf.
Bah, je reviens juste sur un truc sur Left 4 Dead, c'est que dans l'horreur, un truc qui est récurrent, c'est le travail du son. Mm. Et dans Left 4 Dead, encore une fois, c'est super bien réussi. Mm. Dès qu'on rencontre la witch la première fois, qui est une petite fille qu'on ne veut pas vraiment réveiller et déranger,
comme Alma.
Voilà, elle est absolument insupportable. C'est quelque chose qui fait flipper pendant tout le niveau. C'est parce qu'on l'entend chouiner au loin et on va faire un détour dans tout le niveau pour pas aller à sa rencontre. Bon, évidemment, des fois, les game designers étant taquins.
Sinon, on fait exprès. Voilà.
Ça m'intéresse d'ailleurs, Pif, parce que.
Ils les mettent en face de toi.
Pourquoi les petites pleureuses, que ce soit en jeu vidéo avec les Alma, les filles.
Ou les enfants en général.
Que ce soit dans le cinéma d'horreur, dans le jeu vidéo d'horreur.
C'est le top du malsain.
Bon, à mon avis, il faudra demander à un psy. Hein, mais.
Parce que normalement, doit c'est réconfortant et qu'en fait, c'est détourné et du coup,
ouais,
c'est déstabilisant.
Sûrement, je pense que ça fait, c'est des peurs primales. Mm. C'est instinctivement, ça nous dérange. C'est... Pour quelle raison, je ne sais pas, mais il faudrait
c'est
vraiment...
le jeu. C'est parce qu'il y a, à mon avis, hein, une plus grande différence entre... plus tu pars de quelque chose qui est innocent et inoffensif et que tu le transformes en quelque chose de dangereux...
Tu déstabilises.
Plus voilà, le différentiel étant important, plus l'effet est grand, lui aussi.
Le chat de cimetière, moi, zombie, m'avait terrifié, par exemple.
Oui, pour toi, c'est tellement mignon, les chats.
Exactement. Bah attends, tu peux pas faire plus cute qu'un chat, donc un chat zombie. Ouais.
Donc en tout cas, effectivement, sur les dernières semaines, derniers mois, entre Left 4 Dead, entre les FIR, effectivement, les jeux ont été assez actifs sur ces styles d'horreur. Très rapide, très nerveux.
Ouais, je reviens juste sur Fear 2, qui est un titre, alors effectivement, qui fonctionne pas sur tout le monde. Mais pour moi, Fear 2, c'est quelques-unes des meilleures scènes de trucs d'horreur de ces dernières années. Mmh. Le mec avec qui t'entends patrouiller peinard dans un couloir, qui se fait happer, il part à l'horizontale devant toi, il revient s'éclater contre le mur avec le mur qui se défonce, le mec qui s'enfonce de 50 cm dans le mur, qui explose, etc. Avec cette ambiance sonore qui devient perturbante au même moment, c'est réellement hyper bien foutu. Et ils ont une maîtrise de ce genre de mise en scène coup de poing, franchement extraordinaire. Bon, après, le jeu lui-même, ils ont le même problème que Resident. Hein, ça reste un shooter au final, donc ça devient un peu chiant. Mais ils ont des coups de génie comme ça qui sont relativement rares dans le genre.
Pive ?
Oui, Fear 2, je l'ai terminé récemment, là. Et c'était une bonne surprise, en fait. Je m'attendais à un jeu beaucoup plus moyen et
t'avais pas lu le test sur Gameblog?
Non.
Pardon.
Je les écris.
Pardon. Okay. Bon, je le taperai après, c'est pas
grave. Voilà. Non, mais écoutez, Fear 2, oui, il y a beaucoup de scripts, c'est un jeu très scripté et les scripts sont vachement efficaces. Quoi. Ah,
c'est ce qu'on demande à un jeu finalement.
Exactement. Ah, dans un FPS, il n'y a pas photo. Quoi,
c'est à un bon prix, c'est exactement ce que j'ai écrit, à un prix raisonnable, c'est une expérience hyper intéressante à faire. Voilà.
Mais en tout cas, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'entre Left 4 Dead, entre Fear et le titre là dont on va parler, même Condemn, on peut le mettre à l'intérieur, hein, et le Dead Space qui a vraiment fait l'unanimité, hein, qui pour moi. À redorer les lettres de noblesse du survival horror, tous ces titres-là sont des titres occidentaux développés par des Américains ou des Anglais, alors qu'effectivement, sur la dernière décennie, l'horreur, la maîtrise de l'horreur était plutôt japonaise.
C'était complètement Jap même.
Et que là, effectivement, maintenant, en fait, les Japonais sont en train de courir un peu derrière les Américains à ce niveau-là aussi, mais de la narration de la peur. Pive, est-ce que tu penses que c'est un phénomène général ?
Bah, en fait, on va revenir dans les années 70, à l'époque de la guerre du Vietnam.
Ok, d'accord.
Non, mais tout pour dire que si on peut faire un parallèle avec les films d'horreur, c'est que chaque génération a eu sa période de films plus ou moins trash. Et c'est beaucoup revenu ces derniers temps avec la série des Saw, des Hostels, etc. Qu'on appelle, c'est une vague torture porn. Donc ça porte bien son nom, c'est de l'horreur au grand jour, c'est de l'horreur pornographique. Et en fait, c'est lié, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est dans l'inconscient collectif, on va dire, américains surtout, parce que c'est eux qui font beaucoup de jeux et qui font beaucoup de films, on fait toujours un parallèle, ils sont en période de guerre. C'est-à-dire que les gens, ils ont peut-être marre d'entendre parler de l'Irak, etc., de tout ce qui se passe en Orient, etc. Et donc, ils vont se réfugier dans les salles de cinéma.
Et ils ont envie de voir des trucs d'horreur.
Pour décompresser, pour décompenser, mais complètement. Et dans les années 70, il y a eu des films d'horreur assez difficiles. Ça a été une période très, très dure. Il y a des Wes Craven qui sont arrivés avec la dernière maison sur la gauche et des trucs qui n'existaient pas. Il y a eu les slashers qui ont été inventés, il y a eu le massacre à la tronçonneuse. Enfin, c'est la période des 70. On demande à un cinéphile qui adore le cinéma fantastique, c'est une période bénie en général. Et il se trouve que il y a eu la guerre du Vietnam juste avant, qu'il y a eu beaucoup de traumatismes, et c'était une manière pour les Américains de décompenser.
D'accord. Allez, il est d'accord. Non, mais, il s'en est tout.
Donc en fait, finalement, ce que le média aujourd'hui vraiment émergent, qu'est le jeu vidéo, du coup récupère exactement. D'autant plus.
Bah là, on assiste
ces envies de décompression par l'horreur.
Voilà, et c'est global. Hein, ça touche aussi le cinéma. Mais effectivement, ça joue par période. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu plein de choses. Les années 2000 ont été compliquées pour beaucoup de gens. C'est encore le bordel aujourd'hui. Et effectivement,
d'ailleurs, Vendredi 13 a fait un méga carton.
Et voilà, exactement. Alors, Vendredi 13, il y a quand même 11 films, quoi. Ouais. Hein, si on compte le Freddy vs Jason, donc ce qui serait le 11e. Voilà, Yannis Pell, donc, il en a fait un remake récent en mélangeant le 1, le 2, le 3. Enfin, c'est un vrai bordel. Et bah, 60 millions de dollars au box-office américain, c'est incroyable.
Et la dernière maison sur la gauche dont tu parlais il y a une seconde va être remakée.
Voilà, mais ça n'arrête pas en ce moment. C'est l'orgie au niveau de ce film d'horreur. Et c'est quand même des films qui sont de plus en plus violents,
et
globalement.
Et de fin du monde hein, aussi.
Oui, c'est vrai. C'est
aller au cinéma en ce moment et regarder les bandes
d'ailleurs. Il y aura le Roland Emmerich bientôt, 2012, fin du monde.
La classe.
Ça n'en finit plus à ce niveau-là. Et donc, voilà, ça nous amène directement à Dead Space. Dead Space, que dire, à part qu'il a tout bien intégré, ce qui s'est passé auparavant, ça veut dire une maîtrise de l'ambiance, qu'elle soit à la fois visuelle, à la fois sonore, une maîtrise aussi du lieu. C'était important ce que tu disais tout à l'heure, Piv, sur l'unité
c'est
de lieu.
C'est complètement alien.
C'est complètement alien. Ouais, et c'était la première fois dans un jeu d'horreur, entre guillemets, qu'on avait comme ça cette immersion dans un univers différent plutôt qu'une maison hantée.
Oui,
ou
puis c'est intéressant,
lieu.
Ça touche à la SF.
Exactement.
Ils ont tout réussi parce qu'ils ont réussi le gameplay, ils ont réussi
très
le
efficace.
Son, et ils ont réussi graphiquement, ça défonce. Donc t'as cette interface qui vient pas casser l'immersion. T'es obligé de choisir tes armes, mais en même temps, t'as les monstres qui continuent de t'arriver dessus, donc parce que c'est un hologramme et tu te mindes de choisir ton arme. Le son, j'avoue, sans honte, ou un petit peu de honte quand même, avoir joué sans le casque à un moment parce que juste j'en pouvais plus. Un peu, j'ai pas éteint le PC, Julo, tu vois, mais il y a un moment où je me suis dit, bon putain, il est 3h du mat, il fait nuit, et j'en ai ras le cul, donc ils me font flipper, quoi.
Caf.
Angèle. Non, mais enfin, alors moi, j'avais vu les développeurs, quand ils avaient présenté le jeu, c'était encore une version alpha, et déjà, ils expliquaient que c'était. Enfin, pour le son, ils se prenaient vraiment la tête dessus. C'était, c'était un élément à part entière.
Ah, mais c'est
tu
un
vois,
truc. Bah,
pour les scènes de 0G, tu vois, il y avait des engueulades pour savoir est-ce que pas de son parce que 0G apesanteur, machin, ou est-ce qu'on triche sur le de la physique et on rajoute quand même un peu. Et c'était des vraies discussions, les mecs se prenaient vraiment la tête là-dessus. En tout cas, c'était pas un truc qui prenait comme ça à la légère.
De toute façon,
ça crée une ambiance, quoi.
Ouais. Ça se sent dès que tu le lances. C'est-à-dire que les 5 premières minutes de jeu. Tu sais, quand t'as un petit peu joué aux jeux vidéo, tu sais que t'es en face d'un produit qui est méga léché. Parce que tout est cohérent et c'est hyper bien foutu, quoi. Et
soyons clairs, Piv, et justement, ça m'intéresserait d'avoir ta réaction, mais rien que la première heure de Dead Space est sans commune mesure plus flippante que l'intégralité de Resident Evil 5.
Ah bah grave.
Je m'en doutais.
Est-ce que c'est pas une réalité?
Pour moi, c'est évident, en tout
cas. Oui, Resident Evil 5, c'est clairement devenu un gros actionneur. Dead Space, c'est plus dans la source du survival horror. Ça assume complètement sa paternité.
Oui, mais ça en reste un gros shoot aussi, Dead Space.
Mais il y a un truc intéressant.
Mais on doit démembrer les personnages.
Quand même, c'est que dans Dead Space, on joue un espèce d'ouvrier.
Ouais, expliquer après.
Dans Dead Space, on joue un ingénieur ouvrier, un prolo, quoi. C'est un jeu de prolo, Dead Space. Et c'est intéressant parce que ça facilite l'identification. D'ailleurs, Chris Redfield, là, dans Resident Evil 5, il est hypertrophié, on dirait un rugbyman. Enfin bon, le chara-design est quand même plutôt raté.
Angel, dans le coin, était en train de rire quand je disais que c'était un jeu intelligent où on démembrait les personnages. C'est que justement, ils ont apporté une petite nuance. C'est que d'habitude, dans un shoot, on tire sur le personnage. Généralement, on essaie de viser la tête parce que voilà. Resident 4 avait cassé ça un peu, puisque si on démembrait, enfin, si on exposait la tête, du coup, il y avait une tentacule qui sortait, c'était plus compliqué. Et bah, dans Dead Space, en fait, si on tire dans le corps du personnage, ou même si on le coupe la tête, il se passe rien. Le monstre continue à avancer, il rampe. Et en fait, il faut démembrer, couper les bras ou les jambes. Et du coup, on tourne en fait les lasers ou ses tirs. Et du coup, bah, il faut être très précis dans son approche. Et ça rajoute beaucoup de stress.
Mais parce que c'est pas des armes, c'est des outils. Le mec se bat avec des outils. Et donc, il balance ses scies circulaires et ses lance-clous et tout ce que tu veux. Et effectivement, t'as l'orientation horizontale, verticale. Et en plus, il faut réfléchir parce que selon le monstre qu'on a en face, enfin, l'anomalie génétique bidule qu'on a en face de soi.
Le nécromorphe.
Voilà, exact. Il va falloir anticiper parce que si tu le finis et pas bien,
trace en plus,
quoi.
Certains.
Et ça fait partie de la flip du truc parce que t'es jamais sûr que tu l'as complètement buté. Et ça devient un réflexe d'aller marcher dessus, de mettre un gros coup de tatane métallique à la fin pour être sûr qu'il est bien éclaté. Mais quand on a 3-4 qui
sont
dans la même pièce,
contrairement à un jeu comme Resident Evil 5.
Mais moi, Dead Space, pour moi, c'est un vrai bon
trip. Un
chef-d'œuvre,
tout simplement, d'ambiance.
Ouais. pour moi, c'est le meilleur de la liste.
Et ils étaient revenus sur le principe du pauvre type lambda qui n'était pas du tout
le prolo.
Non, qui était pas
et qui muait d'ailleurs.
Ouais, c'était enfin c'est un truc d'ailleurs attaqué par Half-Life quoi à l'origine quand même.
Oui, Gordon Freeman.
Et en plus, je me souviens quand je l'avais vu, il avait dit directement, il avait dit bon voilà c'est le truc Gordon Freeman. C'est le mec qui est là au mauvais endroit au mauvais moment.
Je crois pas qu'il s'en soit jamais caché. De toute façon, c'est juste un excellent élève quoi. C'est un petit peu comme World of Warcraft pour les MMO. Il a su copier plein de trucs et les intégrer et en faire un truc génial. Et donc voilà, mais c'est un vrai talent aussi quoi, de savoir bien copier et plusieurs choses différentes
et du coup d'en faire sortir quelque chose de nouveau voilà, hein, et d'original de terriblement frais en tout cas sur la planète des survival horror.
Et par contre, pour la petite histoire, bon, Electronic Arts a sorti le jeu, puis ils ont développé un univers autour avec un film et des comics.
Oui, on a vu les comics, effectivement.
Voilà, les comics, c'est pareil, qui sont bien. Par contre, le film, voilà, moi j'ai fait une demi-heure, ça m'a saoulé. Ouais, à contrario, le jeu, je l'ai carrément adoré. Donc, dommage, parce que Electronic Arts avait moyen de faire un truc bien. Quoi.
Je crois que le jeu, c'était ce qu'il y avait de mieux dans toute la série, pour une fois. C'était un film d'animation,
Surveiller Dante Inferno, qui est le prochain jeu des mêmes développeurs, parce que moi, je suis curieux, du coup, ça a l'air d'être
bon. Ça c'est pas du tout le même registre, ça sera un God of War-like.
Voilà, dommage.
Mais en termes de design et vu leur premier jeu, ça va être intéressant, effectivement, Surveiller.
Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec, justement, l'univers... Est-ce qu'ils vont complètement le dénaturer? Est-ce qu'ils vont prendre le bouquin, qu'ils vont jouer au foot avec? Tu vois, je sais pas, ça me fait quand même un peu peur.
On va voir, mais en tout cas, même au niveau du scénario, Dead Space est plus intéressant qu'on ne le croit parce qu'il n'y a aucune cinématique et pourtant l'histoire est bien racontée. Et puis surtout, elle évolue beaucoup. Il y a un gros twist vers la moitié du jeu, puis à la fin. Et puis ça c'est pas si mal que ça.
C'est vraiment, encore une fois la preuve que l'utilisation des logs vidéo, audio, un peu à la BioShock, c'est le truc qui marche le mieux. Et dans Fear, c'est là-dessus qu'ils sont ratés avec ces putains de log à lire qui était tout pourri, mais bon, c'était pas les mêmes budgets quoi.
Absence d'interface aussi, enfin d'interface
elle est fondue dans le jeu,
enfin de coupe directe.
On l'a dit.
On l'a vraiment dit.
Voilà. Accident de parcours, il est temps de terminer ce podcast.
Exactement. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, hein, c'est la peur, l'horreur dans le jeu vidéo. Il resterait énormément de titres, hein, bien sûr. Il y a des séries majeures, Raon.
Il y a un truc qu'on n'a pas trop, finalement, qui est évident, mais dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'il y a quand même une différence fondamentale entre le cinéma où tu es passif et donc on t'impose ce qui se passe, et le jeu vidéo où tu es en partie, du moins, acteur. De ton expérience d'horreur et donc
tout à fait, parce que la Resident Evil quand on y joue, c'est comme si on branchait une manette à Halloween quoi, hein, le film, voilà, c'est exactement la même chose.
Est-ce que tu penses pas justement, Pif, que le jeu vidéo, les meilleurs jeux d'horreur du jeu vidéo, c'est pas ça, n'ont pas justement une force décuplée par rapport au cinéma, parce que on est encore plus terrorisé, parce que c'est à soi, à son rythme, on a l'ennemi qui arrive, on doit réagir.
Oui et non, parce qu'encore une fois, moi j'éprouve autant un sentiment de malaise devant un film comme Massacre à la tronçonneuse, pour revenir toujours sur celui-là, que devant Silent Hill. Je trouve que les deux œuvres, les deux sont sur des supports différents, mais ça diffuse exactement la même peur primale.
Avec la même intensité.
Ouais, clairement. Mais effectivement.
Sauf que l'un dure 2 heures et l'autre.
Non, mais voilà,
heures.
C'est ça, il y a aussi une durée, les espérances sont plus longues en jeu.
Ce qui change aussi quand même, parce que du coup, c'est. Physiquement, finalement,
ça peut lessiver,
complètement. On sort pas indemne quand même de titres comme ceux qu'on vient de citer tout à l'heure. Alors, c'est ce que je disais, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a des séries en plus de bonnes séries, hein. Les Clock Tower, la série des Hunting Ground. Il y a eu le jeu polémique Rules of Rose qui était sorti sur PS2 qui avait défrayé la chronique. Il y en a d'autres encore, hein, bien sûr. Il y a un jeu, si on parle de polémique, Manhunt, où là c'est l'horreur pure avec les Snuff Movies. Hein, voilà c'est ça.
Un aspect documentaire, etc. Très réaliste.
Ouais, mais alors, oui, mais vraiment, donc, là, moi, pour le titre personnel, là, je voyais vraiment pas
le prix du danger.
En quoi c'était un jeu vidéo, tu vois.
Mais l'idée en elle-même est pas mal, quoi. C'est le prix du danger en jeu vidéo.
Ouais, tout à fait. C'est Running Man, c'est en plus gore, quoi.
Mais là, c'est vraiment quand même ultra déviant.
C'est très malsain, mais. Mais bon, ça reste de la fiction, quoi.
Ça reste de la fiction. Il y a le Hillbleed aussi, par les créateurs de Blue Stinger, qui était sorti sur Dreamcast, qui était très dérangeant, très particulier aussi. Enfin voilà, autant de jeux qu'on va pas développer là, on pourrait pas en parler, enfin on pourrait en parler longtemps, mais ça ferait des heures et des heures. Et justement, c'est un peu des perches qu'on vous tend. Pour vous, parler de vos expériences de jeux d'horreur, les séries qui peut-être vous ont marqué, plus qu'encore ce que c'est ces grands piliers de l'horreur qu'on a cités ici, bah, à vous, dans le forum, et bien à nous parler de vos séquences cultes sur les jeux les plus forts, les plus flippants que vous ayez rencontrés. Pour certains, ça peut peut-être aussi être un Half-Life 2 avec des séquences finalement assez surprenantes. Pive, on en a parlé avant ce podcast. Toi, je sais que c'est un jeu qui n'est pas d'horreur et qui pourtant t'a bien fait flipper sur certaines séquences.
C'est un monde totalitaire, ça fait peur. C'est 1984. Enfin voilà, ouais, ça joue vachement là-dessus.
Le début est extraordinaire.
Oui, on n'a pas cité non plus Hunting Ground de Capcom qui était vachement bien dans le genre survival.
Il y a une espèce de bossu là qui arrivait, voilà, Quasimodo. Là. Enfin voilà, le genre horreur en tout cas est pléthorique, que ce soit sur PC ou sur console. Les jeux vidéo aiment bien se faire peur et nous, visiblement, en tant que joueurs, bah, on en raffole et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Mad World là, qui sort dans quelques jours.
Ouais, c'est on pas est du une nouvelle... même registre.
Hein. Oh, bah, quand même, c'est l'horreur, c'est la peur.
Resident Evil. On est un peu dans le même registre que Manhunt, hein, d'ailleurs, bah ouais, c'est voilà le prix ouais du danger. Mais avec pour l'idée de base, le synopsis, mais c'est comique.
Enfin bon, Resident Evil 5, House of the Dead qui sortent là en ce moment, et puis Project Zero qui va sortir sur Wii aussi avec un nouvel épisode. Wii, ouais. Voilà, l'horreur est à l'honneur. Bien sûr. Voilà, l'horreur est à l'honneur. On leur a donné ce petit moment avec tous ces vendredis 13 qui se sont télescopés. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain, comme d'hab, hein, pour un nouveau podcast sur Gameblog.fr. Voilà, maintenant, d'ici là, bah, c'est parti. À vous dans les forums. Et d'ici là, bah, jouez bien et surtout, portez-vous bien. Ciao!
Bye!
Salut!
Ne flippez pas trop. Hein.